Bientôt 21 h au bar de l'Apple Pie. Derrière leur comptoir, Dom et Coco servent fébrilement quelques verres. Autour des micros, Jean-Marie et Pascal sont tendus. Les invités tremblent. Moi-même. Arnaud Platine fait les derniers réglages. Radio Apple Pie, 12e. Ça tourne. 5, 4, 3, 2.
En octobre 85, choqué par l'idée qu'en France, pays riche et démocratique, beaucoup de gens connaissaient encore la faim, Coluche a eu une idée géniale. Créer une association qui fournisse tous les jours la nourriture aux oubliés du progrès. Les Restos du Cœur étaient nés. 17 années plus tard, les Restos du Cœur fonctionnent toujours. Et c'est malheureux. En effet, qui aurait pu penser que les pouvoirs publics prendraient les mesures nécessaires pour que plus personne n'ait faim? Ce n'est pas le cas. Sans les restos. J'ai dû me gourer quelque part, ce n'est pas le cas. Sans les restos, ce n'est pas mal d'autres associations. La situation de 540 000 individus serait critique. Les restos du 58 millions de repas sont distribués en France chaque année. Les Restos du Cœur fonctionnent toujours et c'est heureux.
C'est vrai Jean-Marie, c'est heureux et c'est malheureux à la fois. Nous avons rencontré cet après-midi Claudine, présidente des Restos du Cœur au Havre et dans l'arrondissement. Après un premier morceau que vous connaissez tous, un morceau de Coluche, enfin que vous connaissez ou pas, on écoutera un extrait de cet entretien. Mais tout d'abord, présentons nos autres invités, Vincent et Pascal, qui vont nous parler des Rockeurs ont du cœur. Bonsoir.
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 Plus tard, nous serons rejoints par les Red Lézards, qui participent à cette manifestation. Et maintenant, on écoute un morceau de Coluche.
Voici une très jolie chanson que j'avais écrite à l'attention de mon grand-père. Mon grand-père était un vieux monsieur qui avait des idées sur la jeunesse et qui avait plus la jeunesse depuis longtemps et qui voulait absolument nous les coller de force et nous on n'en voulait pas. Toute ressemblance avec des grands-pères existants ayant existé est absolument faite exprès. Ma vie commence bien, je suis né en France. La graine de crétin pousse en abondance. Quand je serai grand, je veux être l'homme qui bosse toute sa vie et qui trouve ça bien. Qui traite de pauvres types ceux qui se révoltent ou qui font la grève quand ils crèvent la faim. Quand je serai grand, je veux être con, beaucoup plus con que mon grand-père qui était chef de rayon et qui avait gagné la guerre. J'aurais des décorations, on dirait diable à l'autre con. Je serai grand, je jouerai au tiercé, et j'en aurai que deux, ça serait pas de chance. Mais je recommencerai la semaine suivante, et si je gagnerai, je rentrerai bourré. On me prendra pas pour un imbécile, ma femme changerait pas son paquet de lessive. Plus con que mon grand-père qui était chef de rayon et qui avait perdu la guerre. J'aurais des décorations, on dira diable. je serai grand. Je serai pas toujours d'accord, mais je dirai rien pour pas me faire virer. Je trouverai que quand même, il y en a qui exagèrent, surtout au gouvernement, et que les gens sont cons de se laisser faire. Remarquez les autres, ils promettent, on les a jamais vus à l'œuvre. Tout ça, c'est copain comme cochon. Non, moi, c'est ce que je dis toujours. Heureusement qu'il y a des riches pour nourrir les pauvres, parce que qu'est-ce qu'on deviendrait, nous, les pauvres, s'il n'y aurait pas les riches pour nous nourrir? Oh, je serai grand, je veux être bon, comme ceux qui votent en silence, en attendant le changement. Il faudrait que ça soit le qui change. Quand je serai grand, je veux être con, beaucoup plus con que tous mes grands-pères, qu'on a pris à leurs enfants à bosser.
Que vous auriez tous reconnu, même si c'est un morceau qui n'est pas tellement diffusé, que Dom, autrement dit notre Dédé à nous, a repêché au fin fond de ses archives. Coluche, donc, on ne remerciera jamais assez, même si malheureusement c'est à titre posthume, d'avoir eu cette grande idée des Restos du Cœur. Un extrait de cet entretien.
En fait, c'est 85, en octobre 85, hein, que Coluche a eu une petite idée comme ça, avec l'idée de donner à manger à ceux qui n'avaient rien. Donc, le premier hiver de la campagne, ça a commencé à Paris et puis ça s'est répandu dans les grandes villes et puis très vite au Havre, bon je peux la nommer aujourd'hui, Henriette de Bellis a créé aux expos qui sont démolies aujourd'hui je crois, un endroit qui était glacial, je me souviens, voilà. Et donc il y avait un camion aussi comme à Paris encore aujourd'hui avec des repas chauds.
Et
voilà,
au Havre,
ça remonte voilà, donc ça remonte au début des
une quinzaine d'années
des
quoi.
Voilà.
Et presque tout de suite il y avait beaucoup de monde ou...
Alors moi j'y étais pas, mais très rapidement, oui, il y a eu beaucoup de monde. Je peux pas te donner de chiffres, hein, parce que sinon je vais te dire des bêtises.
C'est pas trop important.
Voilà. Et donc en fait, là, on entame la 17e campagne. Et chaque année, on espère que c'est la dernière année, mais hélas, ça continue.
On écoutera l'intégralité de l'interview de Claudine, présidente des Restos du Cœur, en fin d'émission. Mais avant toute chose, je vais quand même vous préciser l'adresse et le téléphone des Restos du Cœur, au Havre en tout cas. Donc l'adresse, c'est 20 rue Masséna et le téléphone 02 35 19 91 30. À toi, Jean-Marie.
Oui, donc deux invités, les Le Bordeaux, The Lobodos, Vincent et Pascal, qui sont organisateurs des Rockeurs du Cœur, qui est un peu le thème central de l'émission de ce soir. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo sur cette magnifique action et puis ensuite on vous arrosera de questions toujours sur cette magnifique action?
Le principe est simple, c'est un concert ou plusieurs concerts, donc cette année c'est plusieurs concerts et l'entrée c'est un jouet, donc on redonne au Resto du Cœur pour les enfants des familles des aides.
Et ça existe depuis?
Donc en fait au Havre depuis 90 et en France donc ça doit être depuis 88 ou 89.
85. Ah non, peut-être que je me trompe pas.
Peut-être que tu te trompes. Les Restos du Cœur, peut-être 85. Mais les Rockeurs du Cœur, je pense plutôt 88, quelque chose comme ça, parce que nous on avait fait la première ou la deuxième édition, donc c'est parti de Nantes, avec les managers d'El Morfoot Beat qui s'appelle Manu Ramirez, donc c'est une association aussi, qui avait monté cette première histoire sur Nantes, quoi. Série de concerts avec une entrée, un jouet. Et redistribué aux enfants des familles des aides.
Et sur Nantes, où tu avais été joué avec les Crocs?
Voilà.
Si ma mémoire.
Voilà, avec les Crocs, donc dans une salle qui s'appelle, je ne sais plus, l'Olympique, peut-être, à Nantes. Et puis voilà, après on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas au Havre? Après tout, il y a aussi de la misère au Havre. Donc on a fait la même chose, sur le même principe. Voilà.
et sans interruption depuis la première.
Depuis 90, il y a une année où ça ne s'est pas fait parce qu'on était, il n'y avait plus de salle, en fait. Donc on ne savait pas où le faire. Et puis Mamie Blue n'existait pas encore. Donc voilà, on s'est retrouvés à la rue.
Alors les auditeurs fidèles se rappelleront que Vincent Lebaudeau, ici présent, était notre tout premier invité le 28 mars. Qui nous avait parlé de ses nombreuses activités en tant que comédien, en tant que chanteur, guitariste, j'en passe et des meilleurs, et aussi un petit peu des rockeurs en du cœur. Mais justement par rapport à ça, est-ce que tu peux nous rappeler quand même les tout débuts dans les bars, comment vous avez organisé toute cette histoire?
En fait, les premières années, on avait une salle au Havre qui s'appelait la salle Franklin, où on organisait des gros concerts. Donc les premières années, on avait fait un gros concert à la salle Franklin avec 4 ou 5 groupes, dont Marla Glenn, Louis Stillette, enfin des gens venus vraiment d'outre-mer, d'Australie, des États-Unis, enfin c'est vraiment de tous horizons. Donc on a fait ça 2 années de suite à la salle Franklin, où ça a vraiment tapé au maximum avec des 1500 entrées, des trucs de fou, quoi. Après, on a fait ça à la salle François 1er. Donc, bon, là, c'est tout de suite moins agréable. La salle est franchement pas très accueillante. L'acoustique est pas terrible. Après, c'était un calvaire pour avoir cette salle, vu qu'il n'y a plus que cette salle. Donc, tout s'y passe. Enfin, tous les gens essayent de la réserver des mois à l'avance. Et puis, bon, pour nous, enfin, c'était pas agréable de faire des concerts là-dedans. C'est toujours des conditions un peu spéciales, c'est un peu épuisant. Donc après, on s'est tourné vers les bistrots, quand on s'est dit, tiens, peut-être on pourra organiser sur tout le mois de décembre une vingtaine de concerts dans 5 ou 6 endroits différents, à raison de 3 concerts dans le mois. Donc ça faisait entre 18 et 20 concerts, donc on a fait ça sur 1 an ou 2. Bon, sauf que c'est une espèce de marathon hyper épuisant, parce que tous les soirs, il faut amener la sono, démonter la sono, ramasser les jouets. Donc sur un mois, ça fait du 2-3 heures du matin tous les jours. Et puis, bah, arrivé Noël, tu dors. donc on a arrêté un peu ce truc-là. Et puis, en fait, à Mamie Blue, on avait un endroit qui n'était pas une salle à la base, qui était un atelier d'artistes. Après, ça a été un entrepôt de diverses choses... accumulé là-dedans, et après on s'est dit, mais bon, il faudrait qu'on fasse un truc de cet endroit. On a fait une salle, on l'a aménagé, on a fait une électricité neuve, on a installé des toilettes, on a fait un truc
et c'est beau.
Assez sympathique, je trouve, avec les moyens du bord. Et bah voilà, du coup, on s'est dit qu'on organisait des concerts à Mamie Blue. C'était aussi simple pour nous, c'était moins crevant, on est à la maison.
Avant que Jean-Marie vous travaille un petit peu plus au corps, on va en venir sur le fait que donc à Mamie Blue même, ça sera la 3e édition, c'est ça?
À Mamie Blue, ça sera la 3e édition, oui, c'est ça.
Donc la première, dont je me souviens assez bien, avait vachement bien marché apparemment.
La première a bien marché, l'année dernière, moins bien. En plus, on était un petit peu quand même dégoûté. Enfin, on a trouvé que les gens avaient du mal à venir. En plus, on a fait venir des groupes différents, quoi, des groupes de Paris, de la fanfare, des groupes de Rouen. Et puis les gens ne sont pas déplacés.
Et pourquoi
bizarrement. Parce que je pense qu'ils ne sont pas assez curieux. Enfin, je vois que ça comme cause, quoi. C'est un manque de curiosité. Après, là, par exemple, il y avait cette fanfare qui est venue l'année dernière, qui s'appelle Elzef, qui est un groupe de Paris. C'était extra, vraiment très bien, en acoustique, vraiment très sympa. Et puis, en fait, il y avait, je sais pas, 20 ou 25 personnes. Bon, les 20 ou 25 personnes qui étaient là ont pris une claque en pleine tête. C'était vraiment bien, quoi. En plus, bon, dans une ambiance, on était 20 ou 25 là-dedans, mais ça s'est mis à danser de partout toute la soirée. Et puis, en fait, après, les gens en ont entendu parler. Et puis, oh, ouais, on n'est pas venus. Hein. Je ne sais pas, ouais, mais bon, c'est trop tard, quoi. Il fallait venir.
Avant toute chose, pour ceux qui nous entendent dans le bar et puis ceux qui entendront l'émission en léger différé sur Internet, il n'est pas trop tard. pour les concerts dont on va donner toutes les dates, il y a deux choses à signaler. D'abord qu'il faut être assez curieux, même si cette fois-ci pour la programmation, peut-être des groupes un petit peu plus connus que l'année dernière. Mais c'est aussi que le but, c'est quand même d'apporter des jouets pour les enfants auxquels leurs familles ne peuvent pas les offrir. Donc, faut pas faire trop la fine bouche sur la programmation.
Puis être curieux aussi d'aller voir, même si c'est pas a priori le style de musique qu'on écoute, quoi. Enfin, au moins dire, pouvoir dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Puis, de toute manière.
Et cela dit, la programmation a l'air sympathique.
Bah, écoute, cette année, en fait, ce qu'on s'est dit, vu que l'année dernière, on a eu ce problème-là en se disant que c'est... Bon, est-ce que c'est du fait qu'on amène des groupes extérieurs que les gens connaissent pas? Est-ce qu'il faut qu'on passe les disques avant qu'ils écoutent? Enfin, j'en sais rien. Hein. Après, quelle méthode prendre? Donc, cette année, on s'est dit, on va faire du local. De toute façon, c'est très, très bien comme ça. De toute façon, c'est pour les restos du cœur du Havre. Donc, autant que ce soit aussi des Havrais, après tout, qu'ils fassent aussi dans leur ville, si c'est des Rouennais ou des Parisiens ou je ne sais quoi. Et puis, donc, cette année, c'est vraiment une affiche locale en se disant, là, les gens connaissent. De toute façon, ils ont leur public au Havre quand même. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année, quoi.
En fait, les gens qui viennent, en règle générale, sauf l'année dernière où il n'y a pas eu trop de monde, ouais. Est-ce que c'est un public, le public habituel des concerts de rock, ou c'est des gens qui viennent un petit peu en se disant j'y vais parce que c'est une cause à défendre?
Bon, ça tourne toujours un peu quand même autour des gens qui se déplacent au concert, qui sont un peu curieux, donc je dirais quand même... Mais bon, ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent qu'on n'ait jamais vu, qu'on n'a jamais vu nulle part, et puis qui viennent parce qu'ils voient la cause, et puis...
Ouais. Et puis... Ce qui est bien.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça a du mal, hein. Ça a du mal à... Parce que les gens se mobilisent, dire tiens, on va là, on va voir ça.
Pour rester sur des choses positives, on va glisser sur l'année dernière, tant pis pour les absents, mais la première édition à Mamie Blue, il y avait pas mal de monde, bien que beaucoup de concerts aient lieu en semaine. Il y avait eu beaucoup de jouets, et si je me souviens bien, de très bonne qualité. C'était une grosse réussite, comme ça va être sûrement cette année.
Oui, j'espère.
Est-ce que vous avez une vague idée de ce que ça représente comme nombre de jouets ou en volume de remplir le camion, je vois.
En volume, il y a 3 ans... Moi je peux citer des trucs de fou. Je sais que par exemple en 92 on avait 60 mètres cubes. Et puis là on en est dans les. Ça tourne dans les 20 mètres cubes de jouets après c'est.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un phénomène d'usure avec le temps
que
les gens.
Je sais pas, mais s'il y a un phénomène d'usure, c'est. S'il y a un phénomène. Ouais, peut-être, mais c'est tant pis pour eux, parce que j'ai dit un phénomène d'usure, à ce moment-là, on arrête les restos du cœur aussi, quoi. Comme ça, les gens bouffent pas non plus.
C'est malheureux, il y a des constantes dans la misère.
J'ai l'impression que les gens, si on trouve pas des idées nouvelles, ouais. J'ai l'impression que plus ça va, comme les gens, ça va très vite au niveau de la vie. Si on ne retrouve pas des nouvelles.
Ouais, qu'ils trouvent des idées nouvelles pour que tout le monde mange et puis que tout le monde est. Et du fric pour pouvoir acheter des jouets, enfin voilà, qui trouvent des idées nouvelles dans ce sens-là. Après, nous, des idées nouvelles, bon, ça c'est une idée, puis on a envie de la continuer, parce que de toute façon, tous les ans, c'est le même cirque, ces gens-là, ils sont dans la merde, bon, c'est Noël, tous les maisons, ils ont des jouets, et puis eux, ils en ont pas, enfin.
Et par exemple, si vous, organisateur, vous aviez des moyens vraiment, plus de moyens, enfin même des moyens, que pour organiser, mettre sur pied cette chose-là, est-ce que vous feriez en sorte que vous pourriez faire en sorte qu'il y ait une grosse affluence de monde ou pas? Est-ce que ça changerait quelque chose en gros que vous ayez du fric
Non, je pense pas. En fait, de toute façon, ça se fait pas avec du fric. Ça se fait jamais avec du fric, ce genre d'histoire. Il n'y a pas de fric à la base, donc de toute façon, après, il faut aller frapper chez les gens qui ont du fric. Si on veut dire, par exemple, on va prendre une grande salle ou avec des moyens techniques, avec des techniciens, tout ça, ça coûte du fric, évidemment, s'ils bossent une soirée. Bon, c'est pas... Après, ça dépend sur quel principe on marche. Si tous les gens qui bossent dans une grande salle en tant que régisseur ou directeur et technicien, si tout le monde dit, OK, c'est les rockers du cœur, on fait tout tout gratos ce soir, c'est gratos, tout le monde joue. Les mecs qui sont. D'ailleurs, le problème est toujours là, parce que quand il se passe quelque chose, une action comme ça, quelle qu'elle soit, c'est toujours des musiciens ou des comédiens ou des gens artistes qui vont faire la démarche de faire les choses gratuites, quoi. C'est jamais la partie. La partie technique de la chose, en parlant salle, location de matériel, de son, de lumière, tout, c'est jamais gratuit. Enfin, c'est rarement arrivé. Ah, ouais. Nous, c'est arrivé au début des Rockeurs du Cœur, c'est arrivé à la salle Franklin, dans les 2 ou 3 premières années, c'était gratuit. Les mecs venaient avec le son, les lights et tout, les musicos, c'était gratuit. Quoi.
Je suis pas entièrement sûr que ça joue parce que. Il y a 2 ans, le final des Rockeurs du Cœur s'est passé à l'Agora, dans des bonnes conditions, dans une salle centrale. Ouais. C'est vrai que c'était un dimanche après une semaine de concert, il y a quand même eu une bonne affluence, il ne faut pas se plaindre. Avec les Hollykers et les Backsliders. Mais on ne peut pas dire que ça a déchaîné plus de passion que ça. Quoi. Donc, malheureusement. Pour en revenir à la programmation de cette année qu'on va détailler tout à l'heure. On va écouter Mobs et Travaux qui vont faire partie des artistes qui jouent bénévolement pour les Rockeurs en deux cœurs.
D'accord. Gonfle. Gonflé, mon vieux.
Tiens, moi j'irai. Champignons. Mais pour ça, il faudrait une nouvelle paire de bottes. Mes bottes à moi, elles sont toutes fouées. Une nouvelle paire de bottes et un petit panier. Mais pour ça,
gonfle.
Papa, qu'il soit troué. Il faut pas oublier l'encyclopédie. Car dans l'encyclopédie, il y a tout Katie. Faut pas qu'elle soit trouée. Je vais me faire une bonne bête.
Avec une pomme de terre et des lardons.
Ou alors des oignons et des cornichons.
Mes bottes sont faites pour marcher, pour aller au champignon profond.
Pour ça.
Oui, gonfle.
Gonfle, Marie.
Faut pas qu'elle soit trouée.
veux plus.
Toujours accoudé au bar de l'Apple Pie pour Radio Apple Pie, la radio qui épluche, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas Juliette?
Ouais.
Et puis à propos d'épluchage, on va continuer la mise à nu de d'Hello Bordeaux.
Oh non.
On va commencer peut-être par le bonnet.
Alors d'abord le bonnet blanc bonnet. Donc ces gens-là sont, on l'a déjà dit, mais on le dira jamais assez, organisateurs des rockers en liqueur. Et il y a une question que je me pose, c'est de savoir si le fait de mettre en branle une organisation purement humanitaire, ça donne, ce serait bien d'ailleurs, une image au rock un peu meilleure que celle que peuvent avoir les trop bien pensants. Est-ce que ça adoucit un petit peu l'image que les gens ont d'habitude du rock?
Du méchant.
Point d'interrogation.
Ouais, alors là, je peux pas trop répondre, j'en sais rien. En plus, je sais pas, l'univers musical, c'est pas forcément rock. Après, c'est les rockers ont du cœur, parce que ça,
c'était, pour le titre.
Voilà, pour le titre. Après, ça peut être des jazzman ou des
par
rapman.
Exemple, est-ce
non,
que
les jazzman ont du mal, les rappeurs ont du peur, ça marche pas bien.
Ça marche pas bien. Les rappeurs ont eu peur.
Et par exemple, est-ce que les voisins de Mamie Blue, qui est le lieu central de la chose, ont l'air plus réticents quand il s'agit d'autre chose et moins quand il s'agit de ça? En fait, tu sais pas.
Comment dire ça, moi? Oui, évidemment, les gens du quartier, ils voient les rockers du cœur, ils ont bien compris le système, une entrée, un jouet. Donc il y a plein de personnes âgées qui sont tout à fait contents qu'il y ait cette histoire qui se passe. Ça fait bouger un peu le quartier aussi en même temps. Et puis sinon, les autres voisins, si tu veux, c'est un peu les croisades quand même, on est un petit peu les marginaux du quartier.
Mais ceux qui sont hostiles, le côté humanitaire, ça n'arrange rien, ça n'en a rien à fiche.
Non, pas vraiment. Je pense pas que. Enfin, jusqu'ici, en 3 ans donc d'organisation à Mamie Blue, dans la salle de Mamie Blue, j'ai pas beaucoup vu de voisins venir m'apporter des jouets. Et quelques personnes âgées, oui, qui amènent des pulls, des choses comme ça. Enfin.
Sinon, il y aurait peut-être une petite peur, non?
Ouais, peut-être une petite appréhension de d'être confronté à un monde un peu plus jeune, avec un peu plus de bruit, peut-être, j'en sais rien, enfin, peut-être quelque chose comme ça.
Patience.
Puisqu'on parlait du fait que c'est pas uniquement du rock, on va peut-être en profiter pour parler de la programmation de cette année, ce qui donnera l'occasion à Pascal de nous parler de sa douce voix. Tu veux nous dire les concerts prévus sur les deux week-ends?
Eh ben, cette année, ça ne se passera pas uniquement à Mamie Blue, donc... Il y aura un concert le 8, le premier concert à Montivilliers, dans la salle Henri Matisse, avec 5 groupes. Ça sera de 17h à 21h. Et donc, il y aura les Heebie-Jeebies, Dirty Bugs, Bamboo for Chopsticks, les Super et Bugs. Ensuite, donc, à Mamie Blue, ça se passe sur 2 week-ends. Le week-end du 14, 15, 16 décembre. Le vendredi 14 à 20h30, les Bonobos et Chantyman Express.
Ouais.
Le samedi 15 à 20h30 également à Minima.
Ouais.
Et le dimanche 16, c'est à 18h le dimanche, les Mobs et Travaux qu'on vient d'entendre.
Ouais.
Le vendredi 21 décembre, il y aura également un concert dans la salle du foyer du Mont-Joli. Donc, qui débutera à 20h. Avec 3 groupes, Madison, Hero et Président Chirac. Et à Mamie Blue.
Franchement, au niveau des titres.
À Mamie Blue, également le 21, mais à 20h30, Lycanthrope. Le samedi 22 à 20h30, les Red Lézards. Et le dimanche 23. À 18h, les Backsliders.
Ah, ouais. Avec les Dirty Bugs, encore.
Avec les Dirty Bugs aussi, en
et
première partie.
Ils payent de leur personne pour la cause, les Dirty Bugs. Hein. C'est-à-dire ce qui est. Bon, Jean-Marie, t'as prévu des milliards de questions.
Non, j'allais juste t'en poser une à toi, Juliette. Je pense que les dates en question seront accessibles on the site.
Oh, absolument. Pierre mettra tout ça en ligne, comme il sait bien le faire, avec des belles images, de la couleur, toutes les précisions, les numéros de téléphone. personnes.
Donc ça fait 3 lieux, 8 concerts, 15 groupes.
Ah ouais, non, mais ça prend de l'ampleur, c'est vachement bien quand même.
Bah oui.
Ça veut dire mine de rien.
En fait, ce qui est rigolo cette année, c'est que donc il y a la ville de Montivier et le foyer du Mont-Joli qui sont venus à nous pour dire bah nous, on ferait bien un truc avec vous pour les rockers. Donc on leur a dit, bah, évidemment, c'est que vous êtes la bienvenue, au contraire.
Excellent.
Sur le même principe, une entrée à un jouet, puis à la fin des concerts, on récupère les jouets qu'on remet au reste du cœur.
Non, mais ça, c'est vraiment bien. Ça rejoint ce que nous disait l'interview que vous entendrez à la fin de l'émission, Claudine, la présidente des Restos du Cœur. Il y a quand même des manifestations de gens comme ça, extérieurs. Bon, elle, donc c'est les Rockeurs du Cœur qui l'ont contactée à une époque. Elle m'a dit aussi qu'il y avait les sportifs ont du cœur, des étudiants, des gens qui se proposent. Bah, c'est bien que ça arrive aussi pour les rockers, quoi. Ça doit vous faire plaisir.
Ça, ah, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Puis, c'est vraiment la première année que des gens alentour, bon là c'est mairie de Montivier, bon c'est comme par l'intermédiaire bien sûr de gens qui ont déjà participé aux rockers. Et puis au foyer du Mont-Joli, bon, bah, c'est une jeune animatrice qui s'occupe un peu de faire de la programmation au foyer du Mont-Joli, essayer de faire des actions un peu qui changent de la routine des actions sociales enfin, qu'ils font au foyer des jeunes travailleurs donc, du Mont-Joli. Et puis voilà, donc en fait, c'est plutôt sympa que les gens participent à cette histoire. En organisant un petit concert simple et une entrée à un jouet.
Peut-être que cette année, le nombre de mètres cubes de jouets va être un record formidable.
Un truc de SNCF, là, peut-être cette année. Un petit wagon de marchandises, Mamie Blue, rue Masséna.
Et les jouets, on peut préciser un truc, vous pouvez peut-être nous en dire plus. A priori, ça peut être des jouets neufs, comme des jouets qui ont déjà servi, mais en bon état, bien entendu.
Exactement, oui. Bon, en fait, il y a eu plusieurs quiproquos certaines années où les gens venaient avec des jouets neufs, emballés. Et puis, en fait, ça va pas du tout. En fait, il nous faut des jouets, de façon qu'ils soient neufs ou en très bon état, enfin, qu'ils fonctionnent. Je veux dire, pas un truc à pile qui marche plus, enfin, ou un nounours à trois pattes,
j'en sais rien. Qui manque une oreille.
Enfin, voilà. Le principal, c'est que ça soit en bon état, présentable, quoi.
Le principe, c'est que l'enfant qui reçoit un jouet, qu'après redistribue donc les Restos du Cœur et qu'eux ils répartissent dans les familles, que ce soit quelque chose qui fasse plaisir aux enfants.
Voilà.
Ils auraient pu demander dans leur liste au Papa Noël,
par exemple.
Et qu'ils ne seront pas déçus. Quoi.
Et puis à ce propos, un petit mot peut-être sur la façon dont les jouets sont distribués aux familles.
En fait, nous au départ, on emballait tous les jouets avec du papier blanc neutre et en fait dessus on mettait garçons, filles au mix avec des tranches d'âge, donc ça faisait 4 tranches d'âge entre 0, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, garçons, filles, mixtes. Bon, c'était un vrai film.
un peu compliqué.
Et puis bon, on le faisait, mais bon, en fait, là, on s'est un peu calmé là-dessus. Et puis les Restos du Cœur, ils trouvent que c'est aussi simple que les jouets soient tous un peu présentés. Et puis c'est eux qui gèrent un peu cette distribution en essayant de faire un équilibre bien, quoi.
Parce qu'ils connaissent les besoins des familles,
voilà.
Ils travaillent avec eux.
Puis... Ils les connaissent bien, ils savent bien comment ils peuvent partager les histoires s'il y a 5 gosses ou 6 gosses ou 3 gosses ou s'il y a un peu plus de fric ou moins de fric. Ou si... Enfin voilà, quoi, ils gèrent mieux leur histoire que nous, on pourrait le faire. Quoi.
Avant d'écouter les boys, je veux dire un truc qui peut-être n'engage que moi, mais je crois pas, c'est que les enfants, souvent, selon les âges aussi, ils aiment bien les nounours, les poupées, les pistolets, des tas de choses, mais il y en a qui lisent aussi, donc pourquoi pas apporter un bouquin. Après tout, ça fait partie des cadeaux qu'on peut demander au Papa Noël. Ouais.
Surtout à ce sujet-là, c'est vrai que les gens ont tendance à penser aux jeunes enfants, ça veut dire entre 0, 3 ans, 6 ans, admettons, en amenant souvent des peluches, des jouets pour les petits. Et c'est vrai que, bon, 12 ans, avec ta peluche, bon, t'en as peut-être pas trop envie, quoi. Donc, effectivement, des bouquins ou autre chose, hein, je sais pas, des rollers, des choses comme ça.
Des Game Boy,
des PC, des scooters, enfin, des trucs, tu vois, trucs classiques, quoi.
Le mec amène un scooter, on l'embrasse, hein, quand même.
C'est arrivé, hein, ça arrivait une année, il y a un monsieur qui a amené un scooter.
Ouais.
C'est pas le scooter, ton scooter, non, pardon.
Moi, je l'avais gardé pour pièce.
Mais non, c'est ton savième.
C'est celui qui est dans ton camion.
Oui, bon, ça va couper.
Allez, on écoute les boys.
Aïe. I'm feeling kind of dirty, I need a shot of rock and roll. Monday gets to Friday, I feel like letting go. Well, my temperature's rising and it feels like I'm ready to blow. Julie says she's busy and she acts like 50 below.
The Boys, un groupe mythique de la fin des années 70, c'était Walk My Dog.
Et à l'instant, un fan de l'émission, un fanatique, nous a demandé si on pouvait affiner un petit peu la programmation, parce qu'en fait, tout à l'heure, Pascal a cité pas mal de groupes qui sont très connus pour certains, un peu moins pour d'autres et beaucoup moins pour encore d'autres. Donc est-ce qu'il y aurait possibilité d'en savoir un peu plus? Est-ce que c'est du jazz, du punk
ou du musette?
C'est quasiment que du genre.
Que du genre.
En fait, donc le vendredi 14, Bonobos, donc c'est un jeune groupe à vrai qui...
Que tu connais bien.
Que je connais bien, qui est
un
jeune groupe de vieux. Qui a, je crois, un mois et demi, deux mois, là, peut-être deux mois, oui. Donc bon, c'est rock reggae.
Des anciens délinquants.
Des anciens délinquants, inspirés par Clash, les T-Rex, par exemple, et puis des compositions personnelles entre le rock et le reggae, quoi. Chantiman Express, ben c'est une formation nouvelle aussi, donc entre un ancien groupe qui s'appelait Chantiman Club et un ancien groupe qui s'appelait Nova Express. Donc comme on n'avait pas de nom,
un ancien groupe de jeunes.
Comme il n'y avait pas de nom, ça s'est appelé Chantiman Express. Et puis donc ça c'est de la chanson plus de chansons à texte avec guitare sèche, accordéon et deux voix, donc la magnifique voix de Marie-Annick. Voilà, c'est une chanson à texte de Patrick Cassani, et puis quelques reprises, et des chansons à texte aussi de Laurent, ex-guitariste de Nova Express. Le samedi 15, c'est à minima. Alors ça, c'est très reggae, rock reggae, assez festif, assez dansant, avec des cuivres. Enfin, un truc qui a bien la patate, ça emmène bien pour danser, quoi. C'est assez festif. Le dimanche 16, Mobs et Travaux, alors c'est plus théâtral, dirons-nous, c'est musical théâtral avec une petite mise en scène, avec des costumes, avec quatre clowns qui arrêtent pas de faire les clowns, et puis de la musique rigolote, un bon moment à passer. Le 21, Lycanthrope, alors ça c'est un peu plus expérimental avec, c'est-à-dire un peu plus world music, mélangeant le jazz avec un peu de didgeridoo arboricain, quoi dire d'autre, c'est très très... très très world music, je dirais, parce que c'est vraiment... Il y a tout là-dedans, il y a du jazz, du rock. Bon, il n'y a pas de texte, par contre, il n'y a pas de chant.
Dur à classer quand même.
Assez dur à classer, mais bon, ça emmène bien, quoi. Le 22, Red Lézard. Ben, Red Lézard, c'est, on dira plutôt pop-rock.
Une petite touche de folk.
Voilà.
A priori, je te coupe juste pour dire que normalement, certains d'entre eux vont nous rejoindre imminemment. Ils en parleront encore mieux que nous, a priori.
Et puis le 23, Backsliders, très rock, punk, rock, voilà.
Voilà, puis il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que sinon François est là, puis après il va nous frapper et tout.
Il a coupé
son caractère.
Il a coupé mon micro.
Il n'explique pas. Il est en train de parler avec Pierre. Pierre, on en profite pour te saluer en direct. Pierre, notre fabuleux réalisateur des pages web de Radio Apple Pay. Que c'est beau qu'on en pleure. Pardon.
À la salle Henri Matisse, donc à Montivier. Donc là, c'est 5 groupes, en fait. C'est sur initiative. À la base, c'était pas du tout pour les rockeurs du cœur. En fait, c'est un jeune groupe à vrai, donc s'appelle Bog. Je crois que c'est eux, oui, c'est Bog. En fait, ils ont monté un petit label et ils ont fait une compile avec 13 ou 14 groupes. Chacun fait un titre. C'est les Bog qu'on fait ça.
Il n'y a pas les warm-up dans l'histoire ?
Ou c'est warm-up.
Il me semblait qu'il y avait des warm-up.
C'est warm-up, en fait. C'est le groupe warm-up. Donc
avec Chéri, des Dirty Bugs nous en avaient parlé.
Je crois que c'était Bog. Mais warm-up, donc on crée leur petit label. Et en fait, ils organisaient un concert. Parce que ce petit album, petite compile, donc de, je sais plus, 13 ou 12, 13 groupes à vrai et de la région, ont sorti cet album-là. Et en fait, ils voulaient faire une soirée promo pour l'album. Et ils s'est trouvé que, bon, ça tombait pour les Restos du Cœur et les Rockers du Cœur. Donc, ils se sont dit, bah, après tout, on fait une entrée à un jouet. Et puis voilà, on fait en même temps de la promo pour l'album, donc ça va leur permettre de vendre l'album.
Ah, génial. Un album qui est en vente dans les bonnes crèmeries, et notamment l'Apple Pie, pour la modique somme de 50 francs.
Voilà, voilà. 12 ou 13 groupes, 50
francs. C'est plaisir, hein, franchement.
C'est quand même à peu près 3,50 francs le groupe.
Hein,
c'est même pas le prix d'une baguette.
C'est pas rire.
Et puis au foyer du Mont-Joli, donc 3 groupes, plus ou moins, musique électronique, techno, plus dans cette voie-là, avec des samples, enfin beaucoup de machines, et puis voilà quoi.
Alors, amis du public du bar de l'Apple Pie qui avait posé ces questions, j'espère que vous nous écoutez bien, parce que là on a été très très complet. Hein. J'en vois qui suivent pas. Enfin bon.
Alors, Vincent, recommence s'il te plaît. Mais moins vite.
Non, allez, on continue. Donc, on est toujours avec Pascal et Vincent de Mamie Blue, qui organise depuis de nombreuses années, comme on l'a dit, cette manifestation, les Rockers.
11e année.
11e année.
C'est pas beau, ça.
C'est pas mal.
Quelle personne est
l'ambiance. Ça peut aller.
Oubliez de faire des gros peu dans ton micro.
Vincent, dans ton micro.
Les apartés, je vous en prie. Hein. Alors Jean-Marie, ta longue liste de questions de Michael Cull de l'Apple Pie n'est pas terminée.
Michael Cull, toujours à propos des Rockers du Cœur, j'aurais voulu savoir si en fait dans le public, les gens qui viennent au concert, s'il n'y en a pas certains d'entre eux qui sont eux-mêmes un peu dans le besoin, des gens qui viendraient au concert avec un jouet qu'on verrait 3 jours plus tard attendre le jouet Parce que je suppose quand même que c'est pas des milliardaires qui vont dans les concerts.
Bah, je sais pas, t'es milliardaire toi.
Moi, je suis milliardaire, mais je suis journaliste avant tout.
Donc, pas de moi. Ça, c'est beau la déontologie, tu vois. Milliardaire, peut-être. 15 femmes autour de lui, de 18 ans en moyenne. D'accord, mais journaliste avant tout. Avant ah oui, parce qu'en fait, pour ceux qui l'avaient pas compris, le fameux créateur de toutes ces merveilleuses sculpture luminesque qu'on a autour de nous, c'est Jean-Marie.
Ouais.
Et on vous l'a déjà dit que c'était Radio Copinage ici. On va pas s'en cacher.
Non, mais en fait, pour répondre à ta question.
C'était quoi la question?
Effectivement, c'était, tu me demandais s'il y avait des gens pauvres qui m'amenaient des jouets pour les gens défavorisés. Si, bien sûr. En fait, tu sais, vu les quartiers où on habite et les gens qu'on fréquente. Le plafond annuel.
Mais comment dire?
Le plafond annuel des revenus, à mon avis, c'est pas non plus la lune. Donc, bien sûr, ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent, qui n'ont pas trop de fric et qui ramènent un jouet, en sachant que, par exemple, chez Tati, on peut trouver un très beau jouet pour 20 francs.
Voilà.
Donc, après, si on ne vient pas, c'est vraiment de la mauvaise volonté.
Autour. Donc, non, j'allais juste te dire présence obligatoire à chaque concert.
Bon, pas à chaque concert, mais si les gens viennent à un ou deux concerts, c'est déjà très bien.
Je sais plus quoi dire. On n'a qu'à écouter Björk. En plus, ça va faire super plaisir à Arnaud. Sauf que le titre, faut se lancer, quoi. Atlantique, atome, acide, étude, mix. Sans l'accent. Radio Apple Pay, on écoutait Björk, je suis en train de danser.
Tu te mets debout.
Je vous rappelle que vous êtes sur radio.ap.free.fr. Waouh! Toujours avec Vincent et Pascal de Mamie Blue qui nous parlent des rockeurs en du cœur. Et on voulait vous demander,
toutes les énergies que ça mobilise. Qu'est-ce qui participe, à part vous deux, à la préparation de tout ça, pour les entrées, accueillir les groupes, le bar, enfin tout ce qu'il y a à faire, les affiches, tout ça. Voilà.
Bah en fait, dans un premier temps, donc dans la salle, on s'en occupe surtout avec Adrien, donc notre grand garçon. Donc de gérer un peu la salle, que ça soit bien l'éclairage, qu'il y ait une petite loge, le bar, les toilettes, tout soit en bon ordre. Voilà. Le son, c'est nous, de toute façon, c'est les locaux de répétition. Et donc on a tous un peu de matériel. En général, les groupes qui participent là, en plus, il y en a plusieurs de Mamie Blue, donc à tout ce qu'on est, on a quand même suffisamment de matériel pour assurer un bon son, avoir ce qu'il faut en retour, en micro, en façade, en lumière et compagnie.
Et puis pour les gens qui seraient ranchants, il faut préciser une fois de plus que la salle de Mamie Blue a une excellente acoustique.
Voilà. Du jamais vu. Bien simple. Du jamais entendu, je dirais. Et puis, deuxièmement, donc après, dans un tout autre domaine, c'est au niveau de la promotion, affiches, flyers, et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a un garçon qui s'appelle Jérôme Siroux, qui depuis donc 3 ans nous fait la petite affiche, donc, et nous envoie son petit dessin, donc tous les ans, à essayer de trouver une idée sympa, en couleur, un truc plus ou moins pour les gosses, enfin, qui fasse rêver un peu aussi, quoi. Qui mettent de la gaieté dans toute cette histoire.
Sauf que cette année, c'est en noir et blanc.
Oui, cette année, c'est en noir et blanc.
Et le cœur que j'ai colorié de nombreuses heures.
Cette année, en fait, l'idée, c'était noir et blanc parce que c'est venu aussi de l'affiche des Restos du Cœur qui est en noir et blanc avec un cœur rose. Donc, on a repris un peu ce schéma-là, ce principe-là. Et l'avantage, c'est qu'en noir et blanc, ça va tout de suite plus vite pour trouver des gens qui puissent nous sortir l'affiche à moindre frais, quoi. Donc après, nous, on a acheté quelques stabilos et puis on fait tous les petits cœurs en rose. Mais bon, c'est bon, il y a les enfants à la maison.
Surtout Pascal, parce que je vois bien qu'elle fait une petite moue dans ton dos. Puis moi, je l'ai vu, elle a moitié une tendinite. Hein, tous les après-midi, à colorier les cœurs en rose.
Ah voilà, donc entre parenthèses, pour dire que à ce sujet-là, donc après qu'on arrive, une fois qu'on a les maquettes, des flyers, des affiches et tout ce qui s'ensuit, les bandeaux et tout le reste, donc on va frapper à plusieurs portes, en sachant qu'on travaille aussi avec des gens qui... Bon, il y a le SEM, par exemple, ils ont une photocopie dans les bureaux, donc on achète une rame de papier, et puis on fait des flyers. On est allé à la Papas Productions, c'est pareil, une photocopieuse, donc on fait des petites affiches pour mettre dans les magasins, format A3, avec le bandeau. Et par contre, bon, il y a d'autres gens qui ont bossé avec nous cette année, les a réunis, qu'on la République, Reprographie. Et donc le chef d'atelier est vraiment hyper sympa, là, ça fait 2 ans, 3 ans même, à chaque fois on se pointe, on lui explique notre histoire et c'est sans problème, là il nous a tiré 200 affiches format cinéma, les bandeaux qui vont avec, et tout ça à titre gratuit.
Oui, ça c'est bien parce que tout à l'heure tu disais qu'en général, et c'est vrai, quelles que soient les manifestations de soutien à quoi que ce soit, c'est quand même souvent les musiciens et les artistes en général qui s'y collent. Mais et là, dans ce que tu as cité au départ, les auditeurs ne seront pas surpris. Il y a tous nos invités récents, les Mobs des Travaux et la Papas, le SEM, etc. Mais donc, il existe quand même d'autres gens, comme cette boîte de reprographie dont tu parlais, qui font l'effort pour une bonne cause comme celle des enfants.
Vraiment, sans se poser aucune question, c'est un oui affirmatif et direct. Il fait chaud au cœur.
Ouais, ça c'est des gens qu'on remercie. Il devrait y en avoir encore plus comme ça. Avis aux amateurs, on vous attend pour l'an prochain.
Et puis oui, puisqu'on est dans tout ce qui est un petit peu promo, ça se passe comment les relations avec la presse? Parce qu'il y a quand même pas mal de support au Havre entre le bazar, la presse.
Le bazar, ça se passe très très bien parce que c'est eux qui nous ont fait. Déjà, il y a un article avec l'affiche, avec une présentation des rockers, un petit historique et. Enfin, un beau petit article. Et puis, non seulement ça, et cette année, en plus, je suis allé les voir donc dans leur bureau qui se trouve maintenant aux Zbonk.
Aux Zbonk, ce fameux café.
Café associatif de Robert, donc ouvert le soir à 18h. un petit peu de promo.
Bah oui.
Et puis, donc, ils sont installés dans les mêmes locaux. Et donc, je suis allé les voir pour faire vraiment la maquette de l'affiche propre, avec retravailler donc sur l'écran, scanner, préparer les flyers vraiment très proprement. Et ils m'ont fait ça.
Ils ont bien joué le jeu.
Ils ont joué le jeu aussi.
Et France 3, le Havre Presse, tout ça, ça suit.
Donc Havre Libre, Havre Presse, ça suit. J'ai rencontré les journalistes. Donc a priori, ils viendraient. Ils vont faire un premier article de présentation avec tout le programme et tout. Après, ils vont venir donc sur le premier week-end du 14-15-16, ils vont venir un soir. On ne sait pas lequel encore, peut-être le 14, peut-être le 15, peut-être le 16, ils ne savent pas. Et en fait, donc là, ils sortiront un article en parlant donc de cette série de concerts, comment ça s'est passé, et pour relancer la machine pour le deuxième week-end, donc du 21, 22, 23.
Et donc, quand est-ce que vous y passez à la Téloge? C'est déjà passé ou...
Et à la Téloge, donc, pour l'instant, ils étaient en grève.
Ah bah oui.
FR3 en Bessène est en grève.
Il y a sûrement des bonnes raisons.
Ceci dit, donc la dame m'a confirmé que a priori on aurait donc là un petit sujet, soit pareil, 14, 15 ou 16, ils savent pas, donc ils viendraient nous filmer le groupe et voir un peu comment se déroule la manifestation.
De toute façon, il reste pas indifférent. L'année dernière, il était déjà venu.
Non, il était déjà venu. Ça s'est très bien passé. Un sujet qui est passé deux fois.
Ouais.
Le midi et le soir. Donc, on était très contents.
Bon, bah, super. Alors, vous allez croire, surtout les Red Lézards, dont certains viennent de rentrer enfin dans le bar de l'Apple Pie pour nous rejoindre, vont croire que c'est un fait exprès. Et d'un côté, tu me diras, oui, c'est un fait exprès. Parce que justement, on va écouter Le Fond de l'Air est frais par les Red Lézards.
Le fond de l'air est frais à la ronde. Le fond de l'air est frais, tout le monde. Les usines qui crachent, la belle fumée sent. Son parfum dégueulasse fait tousser les enfants. Le fond de l'air est blanc. Le fond de la gorge est évidemment salement irrité par les vents qui partent un peu plus loin. Les belles idées, on verra bien demain. Le cancer a payé, le fond de l'air est laid. Entre le bitume et ton lessivé, lente il est allé. Le fond du ciel est déconnant. L'ozone est troué depuis quand? Encore en survie, on va s'attacher. Allumer l'air du temps pillé et rien d'autre à fumer. Le fond de l'air est frais. Entre le bitume et le béton lessivé, l'entre mille est allé, facile à inhaler. Quelle montée, attention, au niveau danger pollution. Père impérical, on est transformé, c'est non si banal, en son bicarboné, le fond de l'air est frais. Entre l'habitude et ce qu'on a décidé, l'entre y est allé, facile à inhaler.
Et donc, me voilà chargé d'introduire notre nouvelle attablée en la personne de Lamouk, surnommé Bruno, bassiste et contrebassiste des Règles Lézards. Alors, je ne sais pas si dans le poste, c'est Bruno, Lamouk, Mouker.
Rabadjan.
Actuellement, c'est plutôt Bruno. Donc, Lamouk Moutière, c'est plutôt ancien.
C'est pour les
ça amis. Ça reste pour les intimes, ouais, les amis.
Comme on se connaît depuis longtemps, moi, je peux pas m'en empêcher.
Ah bah, tu restes sur ce que tu veux. Hein. Moutière. Je t'en voudrais pas, de toute façon.
Voilà, Moutière.
Il y a de Paris Manage.
Donc, bassiste des Règles Lézards et contrebassiste des Règles Lézards aussi.
Des Règles Lézards aussi, ouais.
Qui joueront le samedi 22 décembre...
20h30
et non 20h31 à Mamie Blue pour les rockers du cœur.
Bah, comme on a pris un peu l'habitude avec les Règles Lézards de le faire, je sais pas, ça fait la troisième année qu'on le fait pour Mamie Blue, sachant que moi je suis parmi l'assaut depuis plus longtemps que ça, sachant que j'ai participé à la première fois où les rockers du cœur ont eu lieu au Havre. À la salle Franklin.
Oh,
c'était
parler.
Quelque chose de mémorable. J'étais pas là avant, je sais pas si vous en avez parlé.
Et c'est vrai que c'est... Un petit peu.
Bon, je vais peut-être pas revenir là-dessus. Savoir que c'était quand même un super moment. Quoi. Ça a pris du temps, mais ça a eu de l'effet quand même. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir en tant que groupe local de jouer pour cette action-là. Quoi. Autant pour Mamie Blue que pour les Restos du Cœur, les Rockers ont du Cœur. C'est quelque chose auquel on tient absolument à participer. Quoi.
Quelle belle âme, ce Mouker.
Ah, mais je suis pas tout seul, je parle au nom du groupe.
Non,
de toute façon.
Je déconne.
Ils sont pas là âme. Parce que c'est un peu le bras en ce moment, mais.
Parce qu'en fait, c'est ça, tu arrives, tu nous dis, oui, c'est un peu le bras en ce moment. Tu arrives harassé, mal rasé, parce qu'elle a dit.
On n'est pas mal rasé, on n'est pas rasé du tout, s'il vous plaît.
Bon, d'accord, alors certains se sont plaints autour de la table. Et tu arrives
moi,
comme ça.
Moi, je m'en fous, je ne vais pas
embrasser. Parce que vous êtes en studio.
Bah, là, ça fait 10 jours qu'on est en studio parce qu'on veut faire un petit frère au précédent morceau que vous avez entendu, là. Donc on est en train de travailler là-dessus, donc c'est en moyenne 10 à 12 heures par jour, non-stop. On reprend la même équipe que la première fois, avec Florent Barbier au SEM, et puis avec Olivier Durand aussi. Tous les deux, je dirais, coproducteurs sur l'affaire. Quoi. Donc on a encore 5-6 jours de boulot, et puis après... Mektoub, hein, on va voir ce que ça va donner. Hein.
Alors, question sur le studio, selon certains musiciens, c'est parmi les meilleurs moments qu'on puisse vivre, c'est-à-dire que tu es en pleine création, tu es dégagé de tous les autres soucis, tu es tous ensemble, tu le vois comme ça, toi ?
Bah, dégager les autres soucis, oui, heureusement, il y a intérêt d'être dégagé des autres soucis, de toute façon, parce que si on se prend la tête avec autre chose en même temps, c'est pas la peine, quoi. Création, je dirais que c'est plus complètement de la création parce que les morceaux sont déjà relativement assis. Après, c'est plus une idée de la production, enfin du producteur artistique, comme on dit dans les milieux communs, quoi. Donc, je dirais que c'est affiner les trucs qu'on a nous déjà mis bien à plat. Après, c'est des finitions, c'est pas de la déco, quoi. Mais le gros œuvre est déjà fait. Là, on est en train d'affiner les trucs, quoi. Mais c'est vrai que on voit pas le jour en fait, on se lève à midi parce qu'on s'est couché à 4h du mat, on se prend une douche, on bouffe, on boit un café et puis on attaque et puis voilà quoi.
Mais toi tu dis ça comme une évidence, mais c'est pas tous les groupes qui arrivent en studio en ayant tout préparé comme ça. Vous justement, je me suis laissé dire, notamment par Loïc qui est là dans l'assistance, prendra-t-il un micro à un moment, je ne sais pas, que à Radio Apple Pie on connaît bien. En fait, les Règles Lézards, c'est un groupe qui se donne les moyens d'aller de temps en temps travailler les morceaux justement à l'avance pour pas arriver au studio. C'est pas le cas de tout le monde, hein,
c'est pour ça. C'est l'erreur qu'on a fait, je dirais, sur le premier album. C'est qu'on avait fait une pré-prod, enfin ce qui nous semblait nous une pré-prod, et en fin de compte quand on est arrivé au studio on s'est aperçu que y a plein de trucs auxquels on n'avait pas pensé. Donc là cette année on a essayé de devancer le truc, donc il y a à peu près un an on s'est bloqué une semaine dans un gîte où on a répété jour et nuit, on a tout enregistré, on a retravaillé après tous ces morceaux là Il y a Olivier qui est venu pour bosser un peu avec nous, il y a Florent qui est venu nous retravailler avec nous. On a passé un week-end à réenregistrer tout ce qu'on avait fait en les épurant au maximum. De ce travail-là, on a retravaillé après dans le local. Et on arrive avec un produit pas fini, parce que il y a toujours des petites idées de prod qui arrivent au dernier moment, qui fait que on perd moins de temps, c'est un peu plus précis, on en chie plus aussi, parce que du coup on veut essayer de faire mieux que la première fois, donc c'est pas forcément plus cool que la première. Ouais. Quoi.
C'est pas forcément moins le track, quoi, en fait.
C'est pas forcément moins le track, non. C'est un track au-dessus, quoi. C'est un...
Et là, votre répertoire du moment, c'est ce que vous jouez sur scène, c'est votre album, en partie, je suppose.
En partie, ouais. Ce qu'on joue sur scène, ce sera l'album. Bon, pas tous les morceaux, parce qu'on peut pas tous les mettre non plus. Hein. Il y a un manque de temps, manque de fric aussi. Hein. Faut dire ce qu'il y a.
Donc, on y reviendra.
Bah ouais. Et entre ce qu'on présente au public à l'heure actuelle et ce qui sortira de l'album, il y aura encore des différences.
Parce que, c'est ça qui fait la...
Parce que l'idée de la prod derrière a fait qu'il y a des trucs qui ont changé dans les morceaux. Dans l'ensemble, ce sont les mêmes morceaux à la base, mais il y aura des modifs, quoi.
J'interviens juste pour dire que Stéphane, chanteur émérite des Red Lézards, vient d'arriver. Peut-être va-t-il nous rejoindre ou à un autre pour compléter les propos de Bruno par rapport à ce nouvel enregistrement qui est en plein cours. On ne vous salue pas, vous venez de vous quitter, je t'en prie, s'il te plaît. Ah, tu crois que c'est...
Je pense que c'est un peu que ça.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Y a-t-il encore de la voix, on se demande.
Ça va, ouais.
En tout cas, je remarque qu'il y en a qui sortent du studio, mais qui sont rasés. Comme quoi.
Mais c'est pour ça qu'il est en retard.
Rasé de près, je suis pas sûr. Hein.
C'est du poil blond.
Ouais, voilà, ça se voit pas. Plus, il a mis un col roulé, donc ce qui fait que ça se voit moins.
Donc moi, j'ai un problème ce soir par rapport à vous, c'est que...
Comment ça, un problème?
Je vais vous le dire. Il y a une espèce de concept par rapport à votre prochain album. Et on n'a pas le droit d'en parler, c'est un peu trop tôt, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, on ne doit pas livrer le titre.
Pourtant, Bruno nous l'a livré tout à l'heure, le titre.
Pour Noël. Pour Noël.
J'ai rien dit.
Non, on ne l'a pas encore dit, non, on l'a dit à personne encore.
Et donc, c'est quoi le titre?
Bien joué, Jean-Marc.
Bien vu.
Mais à mon avis, ils vont pas.
Non, ouais, je crois qu'ils vont le dire.
Non, non, tu peux, non.
Oui, c'est ça,
c'est
ça. Non, il y a un vrai mystère.
Parce qu'on va... Quand ça va sortir, on va coller des affiches pour annoncer la sortie.
Ce qu'on pourrait dire, pour donner un petit temps d'idée, c'est que l'affiche, évidemment...
est en rapport avec la pochette.
Voilà.
Et donc avec le titre.
L'affiche est en rapport avec la pochette. L'affiche aura la même gueule que la pochette, mais ce sera pas la même chose écrite dessus. Ouais, sur l'affiche, ce sera Red Lézard. Sur la pochette, ce sera autre chose.
Ça nous aide absolument.
Oui, avec ça, on n'est pas du tout aidés. En plus, le portable de Stéphane vient de sonner. C'est vraiment pas professionnel.
Non, pas du tout.
Enfin, donc, on vient de poser une question et on attend une réponse.
La réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite parce qu'on est bon. C'est pas un secret d'État, heureusement. On n'est pas dans ces sphères-là.
On n'a pas les moyens de faire.
On a envie de laisser un petit peu
la découverte.
N'insistons pas.
Voilà.
Non, bah alors du coup, on va passer à autre chose parce que je me suis toujours laissé dire.
Encore.
J'ai toujours pas dire partout. Que bon, vous aviez fait une souscription pour le premier album qui avait vachement bien marché.
Oui.
Et on cite des chiffres ou on n'en cite pas. Il paraît que c'est encore mieux pour celui-là.
Il y a plus de souscripteurs, ouais.
Et ça, c'est pas courant. Moi, je connais des gens à qui c'est arrivé. Première souscription, ça marche super bien. Puis la deuxième, les gens, ils disent...
214.
Ouais, ils nous refont le même truc.
214, la première
214,
fois.
214, la première fois. D'où le titre.
248, là, mais il y en a encore des promesses de dons.
C'est fou. C'est pire que le téléphone.
Si je suis Juliette, le titre, c'est 248. C'est ça? Il est arrivé, les filles.
Ça pourrait être 248. Ça pourrait être 248.
Pour vous qui n'est pas troisième album, trois souscripteurs, c'est l'album selon,
on a touché un petit truc là.
Et pour ceux qui. Ah oui, ceux qui écoutent, ils sont sur internet, forcément. Donc s'ils vont sur notre site ou s'ils sont allés précédemment, il y a des indices en fait, parce qu'on avait collé. Ça a à voir avec un séminaire qu'on a fait à Croûte.
Il y a un séminaire.
Les radiateurs se réunissent à Croûte.
Là, je compatis, enfant.
Savoir que Croûte se situe à peu près à équidistance entre Livarot et Camembert. Et c'est pas des conneries, vous pouvez vérifier sur les cartes.
C'est quoi les habitants de Croûte?
12.
Ah, les Croûtiens.
Les Croûtiens.
Les Croûtiens, ouais. Les Croûtiens. Savoir qu'à Croûte, il y a quand même des bons plans, c'est qu'à 4h du mat', on peut trouver un cube de 10 litres de rouge.
Ah, voilà, d'accord.
Il faut les filons quand même. Hein.
Par contre, pour le pain.
Pour le pain, il n'y a pas de boulangerie.
C'est dommage parce qu'on a bien compris que vous avez mis le fromage et le rouge, mais effectivement, comme dit Vincent, le pain, bon, bah tant pis.
On s'est enfermé une semaine.
Ah, mais ça, il nous l'a dit.
L'année dernière, t'as déjà parlé.
Ouais, déjà dit.
Donc, on avait mis des photos sur le site et puis.
Tu connais par cœur le HTTP de ton site ou de toute façon il sera mis en ligne sur la page, mais si tu connais. Com. Oh bah voilà. Redlesart.com.
Tout paraît tout simple.
www.
Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux justement d'ailleurs
Mieux.
Ouais. Merci Jean-Marie. Je m'attendais pas moi.
Elle est simple et efficace.
Donc a priori vous croyez nous concocter combien de morceaux pour ce nouvel opus?
10, ouais. En anglais et en français.
Mouette-mouette à peu près. Mm.
À peu près dans la même lignée que le précédent ou...
Oui.
Il y a plus de
français quand même cette fois-ci.
Ouais, mais ce sera un peu plus acoustique.
Tiens, justement.
Il y a de la basse acoustique, il y a de la contrebasse.
De la vraie.
Beaucoup de guitare acoustique.
Pourquoi de la vraie? Parce qu'avant c'était pas de la vraie.
Si, avant c'était de la vraie, mais c'était un peu retravaillé. Là, il y a de A à Z.
Cordes sur du bois.
Quatre cordes sur du bois, du vrai, quoi.
Parce qu'avant il n'y avait pas d'instrument, il faisait ça avec sa voix.
Voilà.
Avant c'était pas de la vraie, c'était de la vraise. Ah
ah ah. Hein, Julien, qu'est-ce que tu fais là?
Donc. D'habitude, on pose toujours cette question au groupe à vrai. Mais pourquoi chantez-vous en anglais? Donc, on peut vous demander, pourquoi chantez-vous en français aussi?
Parce que c'est venu là, maintenant. Enfin, ça vient quand ça vient, quoi. C'était que du français avant. Que de l'anglais avant, pardon. Et puis, on a fait un premier morceau en français qui s'appelait Le fond de l'air est frais, en un seul mot.
Que nous venons d'écouter, d'ailleurs.
Ah ouais?
Mm-hmm.
Ouais.
Je pense que t'es en retard.
Et en fait, les textes en français, c'est... Je pense. Il y a à chaque fois un texte qui veut dire quelque chose, quoi. Le fond de l'air frais, c'était sur les usines qui puent. Jean-Paul Chanel, il y a un morceau sur les sans-papiers. Sur. Voilà. Un message, quoi.
Ma question n'est pas totalement neutre parce qu'il y a des gens qui peuvent écrire en anglais des choses signifiantes, comme on dit, dans le milieu autorisé. Par exemple, certains, sur l'air qui n'est pas frais, ont écrit « Smells like sulfur ». Mais c'est vrai que souvent, en anglais, c'est un peu une cachette, quoi. Le chanteur se cache derrière des sonorités plus faciles à manier. Mmh. Et puis... peut-être qu'on se met plus tout nu et qu'on a plus de difficultés à mettre ses idées bien écrites en ordre en français, je sais pas, Stéphane.
Moi, comme les autres dans le groupe, on a grandi avec. Moi, en ce qui me concerne, c'était Woody Guthrie, Dylan, etc. Donc j'ai été beaucoup influencé par ça. Après, chacun son truc. Nous, dans le groupe, les autres aussi, c'était beaucoup de l'anglais. Chacun a ramené ses influences, mais. C'est parti beaucoup de là en fait. Hein. Puis là, au Havre, l'Angleterre, elle est pas loin, hein. juste là.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une constante dans les groupes Havre. Enfin, moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé dans cette ville. C'est que, grosso modo, à 99,9%, c'était quand même l'anglais.
Regarde, moi, je suis Nointot.
Nointot, c'est entre Croûte et quoi?
Entre Croûte et Bernière.
Avant de continuer avec les Red Lézards qui participent, comme on vous l'a dit précédemment, au Rockeurs du Cœur cette année, une fois de plus, on salue les Midnight Movers qui, comme d'habitude, après leur répétition, nous rejoignent à Radio Apple Pie. Et on écoute Holy Curse, un excellent groupe de Paris, qui eux aussi avaient participé au Rockeurs du Cœur, comme quoi tout est dans tout, etc.
L'année dernière, c'était...
casting 100 rats. Creeping in my room when the light goes out. God, the shivers, can't you see? Feeling swell up inside of me. Just see my soul with you. Don't you know how to go with you? It drives me mad. Gotta wake up, don't be bad. God, the shivers, can't you see? Fuck, I'm gonna fuck up inside of me.
Lickers, un excellent groupe dont on ne se lassera jamais de parler, que les auditeurs de Radio Apple Pie ont écouté pas mal de fois, pour la bonne raison que c'est de l'excellent rock'n'roll, matinée de punk et d'influence australienne, que personnellement j'adore, qui ont joué plein de fois avec les Backsliders, on espère que c'est loin d'être fini. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les Hollickers? Si, justement, je voulais dire quelque chose, il y a un split CD, comme on dit, ça veut dire simplement, non pas qu'ils ont splitté, mais qu'ils partagent un CD avec un autre groupe. C'est les Vipères, un groupe québécois, que certains à vrai auront pu voir justement avec les Hollickers à la cafette l'année dernière. Et ce split CD vaut 65 francs. Je ne vais pas trouver l'adresse tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Je vous le redirai à la fin de l'émission. En tout cas, ne ratez pas ce CD des Vipères et des Hollickers. Voilà, on est toujours en direct dans le bar de l'Apple Pie avec Vincent de Mamie Blue pour les Rockeurs du Cœur, avec aussi Bruno et Stéphane des Red Lézard qui participent aux Rockeurs du Cœur. Une entrée, un jouet pour les enfants dont les familles dans cette société, comme on disait précédemment, riche et démocratique, curieusement, n'ont pas les moyens de leur offrir des jouets. Et Bruno nous expliquait qu'il jouait pour les Rockeurs du Cœur, ça tenait à cœur justement au Red Lézard. Et apparemment, vous jouez parfois pour d'autres causes. C'est quelque chose que vous acceptez assez facilement si la cause est bonne.
Ouais. Si on peut aider en faisant ça, on le fait pour des causes qu'on défend, notamment il y a un concert aussi le 13 décembre à la salle Franklin. Concert à la salle Franklin.
Exact.
Oui, qu'on a annoncé il y a 15 jours déjà sur Radio Apple Pie. C'est Sandrine Dussem qui nous avait parlé de ce concert, donc qui est à la fois pour, alors on va voir, les victimes des bombardements US sur l'Afghanistan et pour les victimes US du 11 septembre.
Ouais, voilà.
C'est pour savoir qu'on a eu un petit peu d'infos, c'est que à la suite de ces deux crashs volontaires de zinc sur les tours, il y a énormément de boîtes aux États-Unis qui ont fermé. Du coup, les gens se retrouvent au chômage. Il y aurait entre 30 et 45 000 personnes du fait de boîtes de services qui travaillaient avec les boîtes qui étaient dans le World Trade Center, qui n'ont pas pu se recoller ailleurs. Du coup, les boîtes licencient, et comme ils ont des sous-traitants, et ben les boîtes de sous-traitants se licencient. Comme il n'y a pas de couverture sociale quand tu bosses pas aux États-Unis, ben du coup, il y a un maximum de gens qui se retrouvent à la rue, quoi.
Voilà, alors c'est un truc que je voulais préciser, que tu n'as pas trop mal dit, Bruno, à mon sens, qui continue à me titiller quand même, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plus grande puissance économique mondiale, dont la politique économique et tout ce qui va avec, se ressent dans le monde entier, peut créer des gens dans le malheur pour quelque chose comme le 11 septembre, aussi bien qu'un des pays les plus pauvres comme l'Afghanistan. C'est paradoxal, mais apparemment, ça a l'air vrai. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des concerts de soutien, enfin obligé, si on a envie d'aider des gens qui sont dans le malheur, on en arrive à pouvoir, dans un même concert, mettre sur un pied d'égalité, si je puis dire, un peuple très très pauvre et marqué par 25 ans de guerre comme l'Afghanistan, avec un pays très riche comme les États-Unis.
Bah, le pays est riche, oui, mais en pourcentage, combien de riches détiennent le pouvoir par rapport à combien de pauvres derrière aussi qui traînent dans les rues, qui n'ont rien à becter, qui n'ont pas de couverture sociale, qui traînent 24 heures à l'hosto pour se faire soigner un doigt après une coupure, enfin... C'est peut-être de l'extrême, mais c'est aussi comme ça, quoi. C'est une belle couverture, mais derrière, c'est une grosse merde aussi, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Calvin Russell qui avait fait un disque là-dessus, plus ou moins. Enfin, le titre a tourné autour de ça. Il y a le tiers-monde et il y a le quart-monde. Et le quart-monde, il peut être à l'intérieur des sociétés riches.
Ah oui.
Donc, est-ce que vous savez comment les bénéfices de ce genre de concert de soutien peuvent se répartir entre ces deux pays, ces victimes de différentes choses?
C'est Dominique Delahaye qui a l'initiative de ça, hein,
qui sévit au Havre déjà depuis
plusieurs années.
Ouais, qui sera notre invité, entre parenthèses.
Et qui viendra écrire un livre
le 9 janvier. Quoi.
Et j'ai oublié ta question.
C'est pas grave, c'est pour savoir si comment les bénéfices d'un concert de soutien de ce type, qui s'adresse à deux populations très différentes, peuvent être répartis entre les uns et les autres.
Ça sera remis à des ONG, mais on ne sait pas lesquelles, nous, en fait.
D'accord.
On fait confiance complètement à Dominique. Hein. Il y a un texte qui circule en ce moment à ce sujet-là, qui est très clair. L'affiche, apparemment, n'est pas si claire que ça, puisqu'il y a des gens qui ont fait une confusion en lisant concert de soutien aux réfugiés afghans / victimes des attentats US et qui ont pensé que c'était pour les réfugiés afghans qui étaient victimes des attentats US. En fait, c'est bien clair, on le dit, hein, c'est pour les réfugiés afghans qui ont été victimes des bombes, qui sont victimes des bombes des Américains en ce moment. Et pour les Américains qui ont été victimes de l'attentat du 11 septembre.
Non, j'avais juste demandé à propos de l'affiche, il y aura qui d'autre que Rad Lézard sur l'affiche?
Il y a un tas de monde.
Est-ce que quelqu'un connaît ça par cœur?
Nécessité.
Nécessité, ouais.
Groupe célèbre de
Olivier Durand qui tient vachement à être là, mais qui rentre lui le jour même de tourner avec Elliot Murphy, mais il espère viendra un jour.
Ne vous cassez pas la tête, on mettra ça une fois de plus en ligne sur le site dès qu'on a la formation complète. Pierre, si tu m'entends.
Il y a deux trios de jazz, je sais, il y a deux trios de jazz.
Ok. Ouais. En tout cas, on voit bien que vous êtes. Pas loin de questions qui se posaient à un moment donné. Un artiste peut-il, doit-il être engagé?
Oui.
Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. La réponse, vous, c'est oui.
Peut-il, oui. Après, il y en a qui se le font pas, quoi. Hein. chacun son business. Nous, c'est pas un business. On a envie de le faire parce que ça nous touche, quoi.
Pour en venir à des choses plus musicales, finalement, on vous a pas vraiment présenté. Ça, c'est bien malheureux. Les Red Lézards, ça existe depuis combien de temps? Qui c'est-il? Qu'est-ce que ça fait-il?
Ça existe depuis 10 ans.
Oui.
Exactement. Cette année-là. Maintenant.
Cette année-là.
Cette année-là, 10 ans. Et ben c'est moi et mes deux frères.
Oui, c'est ça, c'est un peu comme les Ramones.
Grosse histoire de famille.
Des vrais frères, par contre.
Et Bruno, basse contrebasse, et Jean-Yves, saxophone, flûte, accordéon, chœur, etc. On s'est créé donc il y a 10 ans.
Pas avec la même formation.
À l'origine, Bruno et Jean-Yves n'étaient pas encore là. On a commencé en fait à Harfleur, à l'école de musique d'Harfleur.
L'école de musique d'Harfleur, tu nous dis ça d'un ton sombre, on se demande s'il s'est passé des choses terribles à l'école de musique d'Harfleur.
A priori, d'Harfleur. C'est Little Bob qui leur a mis les premiers coups de Santiago dans le cul.
Ah, bah voilà.
Voilà, en fait, il venait faire une... C'était pas des cours, en fait, c'était... Il venait, il s'assoyait au milieu, puis on était autour, et il nous parlait. Autant qu'il nous venait, mais il nous faisait découvrir des trucs, des disques, on a beaucoup discuté, et puis...
Vous étiez les petits jeunes.
Ouais, on a amené les instruments, puis il a dit voilà, tac tac, il a commencé à construire un truc. Et puis. Excusez-moi.
Et ça fait deux fois que le téléphone de Stéphane sonne, c'est incroyable. Alors, donc, pendant que Bruno poursuit.
Voilà, ça a démarré là, on a commencé à apprendre à jouer ensemble en fait. C'est lui qui nous a appris à jouer ensemble, à écouter les autres et puis à jouer ensemble. Et en fait, on a rapidement fait le premier concert à la fête de l'avenir à Harfleur.
Sinon,
on n'aurait pas fait. Ouais, c'est ça, on n'aurait plus jamais joué ensemble. Ouais. Même avec mes deux frangins, peut-être on n'aurait jamais joué ensemble. C'est ça qui est marrant, en fait. Et toujours depuis, en fait, Bob, on le voit, on l'a au téléphone, et puis on lui fait écouter ce qu'on fait, il nous file des conseils et tout, c'est vachement sympa.
Je le précise au cas où, mais ça m'étonnerait, nos internautes d'auditeurs non avrés ne sauraient pas qui est ce fameux Bob, enfin, je crois que si. C'est qui ce Bob, hein? Tout le monde le sait, je crois.
C'est ce Bob.
C'est le fameux Little Bob, que j'espère bien on recevra prochainement.
Ah, j'espère, oh, bah, je pense qu'il ferait ça.
Forcément, on est obligé. Et donc, d'une part, c'est une structure musicale pas si courante, puisque tu le disais tout à l'heure, il y a quand même plusieurs personnes qui sont polyinstrumentistes chez vous, comme on dit.
Ouais.
Tu peux nous redire le nombre d'instruments?
Alors, moi, je joue guitare, harmo, Bruno, basse, contrebasse, chœur, Jean-Yves, saxophone, accordéon, chœur, triangle,
mazette,
flûte. Lionel, guitare acoustique électrique, chœur, et puis mon autre frère Philippe, batterie, percu. Voilà, ça fait du bordel quand même quand
ouais,
on se déplace.
Ça fait du bordel, ouais.
Et donc Loïc, grâce à Loïc, on arrive à organiser un peu tout ça pour faire un son.
Loïc, qu'on ne présente plus.
Il fait partie du groupe, quoi, on est 6 quoi en fait.
Et tout ça tourne?
Ouais. Ça un peu moins ces derniers temps parce qu'on a fait une pré-prod pour le disque en fait depuis une dizaine de mois en fait on a travaillé sur les morceaux de l'album qui ont vachement évolué hein. Je disais on s'est enfermé une semaine pour les bosser et puis Olivier Durand venait en répète écouter un peu, on était dans le studio avec Florent Barbier, studio Franklin, pour qu'il entende un peu, qu'il écoute, qu'il corrige des trucs parce qu'on fait des bourdes, hein. Toujours les mêmes morceaux, toujours la tête dedans, ça fait du bien d'avoir un regard extérieur, faut pas avoir peur de se confronter à ça, de se prendre des baffes et de s'entendre dire attends, ça chier, ça va pas, c'est hyper classique, c'est nul, c'est plus.
On dit ouais, d'ailleurs, je t'interromps, en parlant de Florent, vous êtes en train de préparer un album dont le titre sera.
Bien joué, Jean-Marie.
Florent Barbier, le titre de l'album.
Non, bon, ça, le titre, en fait. On réserve un peu ça aux souscripteurs, quoi. Les 250 personnes qui nous ont fait confiance depuis une dizaine de mois. Ils ont mis 100 balles sans rien avoir. On leur dit, bon, bah, aidez-nous, on voudrait faire un deuxième album. Pouf, il y a spontanément 250 personnes qui ont filé ça. Et c'est vrai qu'ils seront les premiers, on va faire une remise du disque officiel et qu'on va leur filer le disque, l'affiche, on leur garde un petit peu ça pour eux parce que...
Est-ce que tu veux bien nous dire où et quand?
Ouais.
Si ça t'en est pas.
Je veux bien. Merci. Non, ce sera mi-février. En fait, il y a un concert à Gonfreville. Comme en fait, on est en structure asso, nous, à Glesa. Donc, on est asso de Gonfreville et Gonfreville nous aide à faire ce disque-là, notamment en faisant la conception de la pochette et puis les affiches. Donc, le concert de sortie aura lieu le 22 février à Gonfreville. Bon. Chaque souscripteur a deux places, donc il y en a 250, il va y avoir 500 personnes qui vont venir déjà. Si vous voulez venir au concert, faut souscrire quoi en fait. Il y a beaucoup de place pour les autres.
Donc la souscription est toujours ouverte, il n'y a pas de problème. Hein.
Ouais. Okay. 100 balles, 10 titres, 10 balles.
Sur radiolézard.com, on peut toujours.
On peut toujours s'inscrire.
Ouais, on imprime la page et puis.
Ouais, super.
Et puis, juste quelques jours avant le 22 février, on réunit tous les souscripteurs pendant toute une journée, on paye un coup, on remet le disque, et puis ça partira de là, quoi. Là. On affichera.
Ça sera sexuel ou...
Ouais.
Bon. Ah, que les gens le sachent quand même, parce que avec autant de personnes réunies...
Ça va être
enfin,
chaud.
Bon, un autre truc qui me traversait l'esprit, qui n'a rien à voir, du moins... C'est que vous parliez des différents frères qui sévissent au sein des Rats de Lézard. Il y en a un qui est dans l'ombre, si j'ai bien compris.
Oui.
Ah, alors
mon grand frangin qui habite en Allemagne.
Qui fait une connerie, il se retrouve à l'ombre.
Et en fait, il écrit des textes aussi. Bon, lui, il est prof d'anglais, donc ça aide.
Ah, okay. D'accord.
Voilà, il écrit et il corrige. Et ça fait un moment qu'il est parti sur la main comme ça, et c'est vrai que on correspond vachement, surtout par email. On n'a jamais autant discuté que depuis qu'il y a l'email, en fait. Ça, c'est vachement bien.
Bah, comme quoi, la technologie, quand c'est bien utilisé, ça peut être affectif. Ouais. Oh, c'est beau. Dites donc, ça n'a rien à voir et j'ai aucune transition pour amener ça, mais je propose qu'on écoute quand même Backsliders, qui vont participer eux aussi, une fois de plus, au Rockeron du Cœur, à cette grande aventure. Ça sera le dimanche 23 décembre à Mamie Blue à 18h. Et on va les écouter dans une reprise de Librio. C'était sur le fameux tribute to Librio qui s'appelle Drives Me Wild.
Don't worry.
Backsliders, une reprise de Dr. Feelgood, Dress Me Wild. Nous sommes toujours avec les Red Lézards pour encore quelques minutes, puisque leur studio les appelle, et c'est le cas de dire, les appelle et les appelle sans cesse. Mais avant tout ça, Pascal avait une question fondamentale à poser, qu'on avait complètement oubliée.
Et oui, pourquoi le nom Red Lézard? C'est bête, primaire, mais après tout...
On ne l'a jamais posé.
Non, étonnant.
Alors, bon, à l'origine, c'est... fallait trouver un nom, voilà. On est à Harfleur, il y a la lézarde qui coule à Harfleur. Hein, et ben quand il pleut beaucoup, elle est rouge, ouais. Les briques autour crachent tout, et puis la lézarde devient rouge. Et voilà. Bon, mais bon, c'est un petit peu politique aussi, la couleur rouge.
Non, c'est parce qu'à l'époque, la municipalité était...
Non, parce que moi, j'ai...
Ça dit, qu'ils sont plus coco canard, quoi. Sinon, ça sera appelé Black Lézard.
Black Lézard.
Oui, mais il y a déjà eu un groupe OAF qui s'est appelé Black Lézard.
Ah oui, c'est vrai.
Et, c'est le seul animal que si tu lui coupes la queue, il continue de courir. Alors, ça nous a...
Et ça repousse.
Là, c'est la bonne réponse.
C'est pour bête, quand même. T'imagines, ouais. Enfin, du cuir de lézard rouge.
La lézarde n'est pas très appétissante.
Oh non.
Est-ce qu'on peut encore les pêcher? Parce que dans la Seine, il paraît qu'on peut maintenant.
Moi, j'ai pêché dans la lézarde quand j'étais petit.
Ah, Jean-Marie, une anecdote qui nous ravit tous. Non.
si. Qu'on se le dise, ben, j'ai chopé des photos pour le site.
Oh, je crois que t'avais chopé des maladies.
Pour le site.
On s'en sort beaucoup mieux.
Si, parce que la lézarde, il me semble avoir vu aperçu un article ce matin encore dans le journal où il disait que c'était pas terrible, quoi. Il y avait énormément de...
Non, je pense pas que ce soit génial.
Donc, méfiance. Les bains sont fortement déconseillés.
Pêchez vos idées chez votre poissonnier.
Yeah. Merci, Vincent.
Je vais dire un petit mot sur notre site. Il n'y a pas de mise à jour encore de fait au début du mois de décembre, mais ça va être fait bientôt.
Et pour vous, il y a faire autre chose.
Ouais, il y a un forum, donc faut venir déposer des trucs sur le forum. Ça discute un petit peu là, ça commence. Et la mise à jour va être faite bientôt. On parlera de l'album, et puis il y a les liens vers Radio Apple Pie, vers le site des Backsliders, vers le
Campbell Lane, Eddie Murphy, Little Bob,
plein de liens, bien.
MST, qui vont jouer aussi pour les Requins du Cœur.
Yes.
Si encore.
Plein de liens, sur des sites.
Oui, il y a une dizaine de liens, quoi.
Ah, d'accord. Il me le dit en chuchotant parce que c'est un véritable professionnel, mais en fait, Arnaud me disait, il reste 20 minutes. Oh, mais tout va bien. De toute façon. À moins que les Red Lézards...
On va devoir vous quitter, là.
Nous, on va...
Ah, voilà, c'est...
Il faut qu'on y vasir.
C'est ce qui me semblait. Le travail vous appelle.
Vous retournez enregistrer.
On y retourne. Ouais.
Pas vous continuez.
Oui.
Voilà.
Vous en êtes où, là? Vous faites quoi, les voix?
Non, là, les... Tout...
Bah, les 10 morceaux sont en boîte.
Voilà. Je rentais l'ascension au titre de l'album.
Les 8 de morceaux sont mis, il y a des voix live déjà qui sont en boîte. Et il reste à faire les cuivres, accordéons et chœurs. Des conneries, quoi.
Sympa pour les cuivres, accordéons,
démocratique. Et puis
une petite info, il y a des violoncelles à faire.
C'est Bruno, mais c'est quoi le violoncelle?
C'est vrai?
Non. Non.
On va être honnête, non.
Non. C'est bon,
non.
Non.
J'arrive
à jouer bien la contrebasse, mais alors le violoncelle, c'est pas encore de...
C'est un copain, Jean-Vincent, qui joue avec le groupe Yaka, qui est un excellent violoncelliste, qui vient nous faire une petite intervention sur un morceau. Et à ce propos, Yaka sera en concert à la Apple Pie très bientôt, le 16 décembre, le prochain 16 décembre, là. Et à l'Agora, en première partie des Hurlements de Léo, très bientôt. C'est à découvrir, hein, vraiment.
Ouais, j'ai écouté, par exemple, vachement bien. Avec un petit côté Tom Waits, un petit côté Arnaud.
Voilà,
un mec qui chante, qui est le frère de quelqu'un qu'on connaît, une fois de plus.
Oui.
Le monde du rock'n'roll et de la musique en général est...
Le Havre est un grand village.
Yaka sera...
Le monde est un grand village, nous sommes sur une radio internet, tu sais.
Yaka sera avec nous sur le concert de sortie de l'album à Gonfreville.
Voilà.
Le 22 février.
Et puis, voilà. Encore une question, Red Lézard, à part par la souscription, on peut l'obtenir comment, ce disque intitulé
C'est distribué...
Premier ou deuxième?
On se démarre pour la distribution, en fait. Ce sera distribué par... par Brennus sur son catalogue, le label Brennus qui nous met ça sur son catalogue. Mais bon. Sinon, on met nous en dépôt la FNAC.
Et puis vous en
à la Paul Paille, Koussem, à Mamie Blue.
On a vendu du premier comme ça, enfin, on fera mieux pour le deuxième.
De bon, moi j'ai l'impression... Mais, bah, j'ai l'impression qu'il ne reste plus qu'à remarcer les Reines des Arts.
Bah, ils peuvent s'en aller.
Ils peuvent s'en aller.
Qu'ils partent.
Messieurs, quittez-nous, s'en est assez, terminez vos vers si vous voulez, mais... Non, à très bientôt, et si ça se trouve, on vous accueillera en février.
Ben, volontiers,
pour parler d'album, et cette fois-ci, on saura le titre, quoi. Hein ouais. Merci encore. On vous quitte en écoutant Queers, sur une compilation en hommage à un groupe dont on raffole tous ici, qui s'appelle Undertones, et le morceau, c'est Get Over You.
La chronique BD pour commencer avec ce soir on va parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires aux éditions SA qui vaut quand même 164 francs, ce qui n'est pas donné, n'est-ce pas, mais ça vaut le coup. Donc on va parler un petit peu du dessinateur, ou très légèrement parce que j'ai pas beaucoup d'informations, qui s'appelle Kevin O'Neill, qui est un dessinateur américain qui a fait, bon, je m'en souviens il y a quelques années aux éditions Zenda des albums qui s'appelaient ABC Warrior, qui étaient des espèces de super-héros assez trash, mais qui décapaient vraiment beaucoup. Et puis surtout, on va parler du scénariste Alan Moore, qui est certainement un des plus grands scénaristes actuels dans l'Hexagone, pense, je peux le dire. Et surtout, bon, Alan Moore, il est mené en 1953 en Angleterre. Très vite, il est exclu du collège. Ça, c'est déjà assez bon augure. À 17 ans, il exerce différentes activités alimentaires et puis il se dirige après vers l'écriture. Et donc il participe à un magazine qui s'appelle Sands, qui est un magazine rock. Donc il écrit pas mal d'articles pour le magazine. Et puis en 1984, après un grand nombre d'histoires qu'il a écrit pour un magazine qui s'appelle AD 2000 AD, magazine comics, Il entreprend avec David Lloyd, qui est le dessinateur, une série qui s'appelle V pour Vendetta, qui est déjà un grand succès à l'époque. Et en fait, ça se passe dans une Angleterre avec un régime totalitaire. Et un personnage, une espèce de justicier apparaît, un peu comme vous voulez le personnage d'Harlequin dans la comédie italienne. Et il est là pour, avec un masque et tout, pour vraiment mettre un peu la tête au carré aux méchants, quoi. Et donc ça, c'est un succès assez énorme. Ensuite, bon, il travaille pour la filière Marvel aux en Angleterre.
Marvel bien connu.
Voilà. En 86, il sort les Watchmen, les Gardiens, avec Dave Gibbons au dessin, qui est aussi un grand succès. Alors là, c'est pareil, ce sont les espèces de super-héros, mais de façon crépusculaire. Les types sont un peu paumés, ils se posent des grosses questions.
Après, plus noir que le surfeur d'argent, pardon.
Un peu dans le même type de réflexion. Et ensuite, après, bon, il passe en 88 à une série, enfin un album qui est basé sur le Batman, qui s'appelle The Killing Joke, qui s'appelle Souriez en français, et qui est vraiment atypique parce que déjà à l'époque, il commençait à Batman, pour tout le monde, était déjà un peu atypique, mais là, il a renforcé le côté sombre de Batman. Et avec le Joker, ça donne quelque chose d'assez exceptionnel. Ensuite, bon, en 88, de la même année, il crée sa propre boîte d'édition, parce qu'il en a un peu marre de marcher pour les grosses boîtes. Donc il dit, je vais créer ma propre boîte, comme ça je serai un peu plus libre, ça va être plus sympa. Et donc, il sort un album qui s'appelle Arg. Donc c'est un pamphlet, en fait, contre un amendement qu'avait fait Thatcher à l'époque, l'amendement 29, qui était sur les populations, en fait, homosexuelles britanniques, qui étaient contre. Et donc là, il en met un bon coup au gouvernement Thatcher. Après, il se lance dans une BD qui s'appelle Bean Number, qui est dessinée par un des grands dessinateurs américains, qui s'appelle Bill Sienkiewicz, qui fait un style un peu proche de la peinture, et c'est vraiment sublime. On a déjà vu des choses de lui plus récentes, qui sont vraiment superbes, dont on en reparlera certainement un jour. Voilà. Ensuite, il se lance dans un album. En fait, bon, cet album plutôt Big Number, c'est en fait une chronique de petites villes des États-Unis, enfin pas des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, en fait. Et c'est le rapport des habitants lorsqu'un supermarché vient s'installer dans leur petite ville. Donc c'est assez curieux. Bon, il y a le rapport un peu, les mecs qui peuvent taper les plombs parce que bon, ils n'estiment pas ça très bon. Et donc c'est assez spécial. C'est encore une charge contre la grosse masse, quoi.
Ouais, les establishments. Ouais.
Ensuite, bon, vient son chef-d'œuvre au niveau scénario, qui s'appelle Fromel, qui est une masse de renseignements et une biographie presque de ce qui s'est passé avec Jacques Léventreur en Angleterre.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est vraiment une masse. C'est-à-dire que l'album, il fait, bon, je sais pas, 700 pages, quelque chose comme ça.
700
pages. Ouais, pas loin. Et non, c'est assez énorme. Hein. Il a dépouillé de A jusqu'à Z l'histoire de Jacques Léventreur. Et c'est assez énorme le boulot qu'en plus il a fait avec Eddie Campbell au niveau dessin. C'est fabuleux. C'est-à-dire que bon, il décolle aussi bien le côté criminel que le côté politique. Donc c'est assez sublime. Et puis dans le début des années 90, donc sa boîte a des difficultés financières. Et donc, il se retrouve coulé. Il est obligé de fermer sa boîte. Et donc, là, il rentre chez Image Comics, qui est une grosse boîte, en fait, américaine. Et donc, dans ces cas-là, il participe à des séries plus connues, style Wildcats, Spawn, The Max, des choses comme ça. Et donc, bon, c'est quand même un chef de file de la nouvelle génération britannique au niveau de la BD. Et donc, là, on va parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est quand même quelque chose. Puisque si vous aimez les vieux films fantastiques des années 60, anglaises, La Hammer ou Sherlock Holmes, etc., en fait, là, vous allez trouver trop plaisir. Parce que, en fait, le gouvernement anglais, dans les fin des années 1800, engage des personnages bon, hyper connus de la littérature, que ce soit L'Homme Invisible, Dr. Jekyll, on va citer encore Alan Quatermain, qui est un peu moins connu, mais bon, Alan Quatermain, c'est le gros aventurier coloniste de la littérature anglaise. Enfin, 5-6 personnes comme ça, pour combattre un complot, apparemment, dirigé contre l'Angleterre. Quelqu'un a volé un produit qui s'appelle la Kevorite, qui permet de voler dans les airs, et donc qui était destiné normalement à partir en fusée. Et donc le truc est volé. Et donc on engage ces gens-là qui sont, on les recherche partout parce que déjà c'est pas facile de les retrouver parce qu'ils sont un peu décatis. On va dire l'homme invisible par exemple, il a complètement pété les plombs, il se retrouve, on le retrouve dans un couvent. Déjà le couvent est un peu particulier, il serait plutôt sadomaso. Et ensuite, en fait, on le retrouve là parce que les nonnes se retrouvent enceintes mystérieusement.
Ne me dis pas qu'elles se sont rendues compte de rien.
C'est le Saint-Esprit qui les a mis engrossés, si tu veux. Voilà. Mais en fait, on se retrouve avec l'homme invisible qui est un peu responsable de la chose. Il y a effectivement Alan Quaterman qui est un grand aventurier qui a servi l'Angleterre, etc. Qu'on retrouve dans les bouges infâmes et qui fume de l'opium. En fait, c'est très, très aussi crépusculaire, un peu dans le style de Piquinta, etc. Ces personnages-là vont être engagés effectivement par le gouvernement anglais pour défendre l'unité britannique. Et là, en fait, on se rend compte que tout n'est pas si simple que ça. C'est vraiment donc ils sont un peu manipulés et tout se résume à un conflit entre les crapules qui détiennent un côté de la ville, qui est dirigé par le méchant de service, n'est-ce pas? Qui ça pourrait être? L'ennemi de Sherlock Holmes.
La marque jaune. Oui, non, comment il s'appelle? Ah, bravo!
Bien! Merci Arnaud!
Moriarty, désolé. Bah oui, je...
Et de l'autre côté, le docteur Fu Manchu.
Ah, voilà.
Que vous connaissez très bien, Juliette, n'est-ce pas?
Je cherchais.
En fait, bon, c'est du délire total. Bon, on se retrouve avec.
Donc des références à tout ce qui peut exister.
Typiquement, effectivement. Comme d'habitude fait déjà Alan Moore, c'est-à-dire qu'il se sert toujours des références. Que ce soit littéraire ou BD au niveau des personnages, tout en les détournant.
À travers le fantastique.
À travers le fantastique.
Tout ce qui peut être écrit dans la littérature britannique de ce genre.
Il arrive à amalguer, si vous voulez, le côté respectueux de la chose, tout en partant dans les délires complètement hallucinants. En plus, le dessin de Kevin O'Neill, qui est vraiment coupé, qui est très à coup de serpe, à coup de visage angulaire, etc., ça renforce le côté vraiment speed de la chose. Et c'est vraiment hallucinant. Voilà. Donc, on reconseille vraiment parce que c'est vraiment superbe.
Bah écoute, c'est très beau. De toute façon, une fois de plus, t'en as vachement bien parlé. Franchement, sans te lancer des fleurs. Une fois de plus, c'est complètement... je sais pas où tu vas aller chercher tous ces gens complètement cinglés, mais chaque fois, les scénarios sont complètement hallucinants. Donc on rappelle, ça s'appelle La Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Voilà.
Par donc Alan Moore et Kevin O'Neill.
Ouais, Kevin O'Neill.
Et voilà. L'éditeur, excuse-moi.
Édition ESA. Et en fait, il y a déjà eu une édition en deux volumes il y a quelques mois. Ils ont fait l'intégrale des deux volumes en un seul. Et un petit plus en mettant quelques illustrations sympathiques, notamment au début et à la fin. Il y a une espèce de journal. Ils ont présenté une espèce d'idée en fait d'un dessinateur de l'époque. Qui apparemment avait lancé, enfin je pense que c'est complètement hallucinatoire, mais qui avait lancé un système de fiches de peinture. Et donc là, il commençait par le portrait de Dorian Gray, une référence quand même, mais il numérotait en fait des couleurs. Il mettait le portrait en noir et blanc et il fallait mettre la couleur pour bien apprendre la peinture. Donc tous les cas sont numérotés, et là on se retrouve avec des couleurs chair humaine fumée.
Tu peux montrer la pochette, même si c'est que pour nous.
Même si c'est radiophonique.
Ouais, c'est chair humaine fumée, jaune pustule, mousse tombale, entre autres. Et à la fin, effectivement, on a le résultat, une fois peint. Et en fait, c'est vraiment le portrait de Dorian Gray, comme vous pouvez le voir.
Ah oui, c'est très beau.
Ça parle. C'est effectivement.
Le tout, malheureusement, pour la somme un peu rédhibitoire de 164
euros. Voilà, c'est ça. Mais ça vaut vraiment.
Bon. Avant de passer à la chronique polar, toujours de notre cher Pascal, on va écouter quelque chose que peut-être certains vont trouver trop entendu, trop ceci, trop cela. Mais en tout cas, on vous le rappelle, on était quand même dans une soirée spéciale pour les Restos du Cœur et les Rockeurs du Cœur. Une idée de Coluche, avec de nombreux artistes qui l'ont suivi. Alors, même pour tous ceux qui n'aiment pas Goldman, on écoute ça.
All that's in the past.
la fameuse chanson des Enfoirés en hommage au Resto du Cœur, et qu'on salue essentiellement pour la merveilleuse idée qu'avait eu Coluche à l'époque, et c'est bien pour ça qu'on est tous là réunis ce soir pour en parler. Je fais un bref aparté avant la chronique Roman Noir de Pascal, puisqu'on parle de resto, pour signaler un email que j'ai reçu aujourd'hui. C'est vrai que quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un McDo, vous savez, c'est ça, ça... Oui.
Ils te mettent de tout, toi, hein.
Oh, t'es hyper rigolo, toi. Bon, alors donc, un email que j'ai reçu d'un copain qui participe à la lutte du McDo de la rue Saint-Denis. On en a un peu entendu parler à une époque, notamment parce que José Bové est venu les soutenir, et dès qu'il y a une personnalité médiatique qui se pointe, il y a un petit peu d'effort de la part des journaux télévisés et compagnie. Malheureusement, ils sont toujours en lutte. Il y a eu 5 licenciements, les conditions sont toujours précaires, ils sont tout le temps en train de manifester et personne n'en parle. Mais le lundi du décembre, ben, c'est très bientôt pour les internautes qui nous écoutent. Il y a une manifestation de soutien, c'est un concert qui a lieu à la Flèche d'Or, un excellent endroit de concert qui boulevard de Bagnolet dans le 20e à Paris. Et donc pour tous ceux qui nous écoutent, allez rejoindre ces gens-là. Je vous lis pas tous les artistes qui participent parce que j'ai pas le temps, mais c'est pour une bonne cause et c'est pas cher, donc une fois de plus, allez-y. Voilà, on rejoint Pascal avec des choses qui énervent aussi, non?
Oui, un petit peu quand même. C'est pas la Flèche d'Or, ça s'appelle la cave de la Goutte d'Or.
Voilà.
Et en fait, c'est un polar écrit par Gérard Streff dans la collection Polar Archive chez La Baleine. Ça vaut 41 francs. 98. Mais oui, toujours. Et donc, en fait, bon, faut bien dire, Streff est quand même directeur de la collection. C'est pas innocent. Et toute la collection s'appuie en fait sur des documents véridiques et des archives un peu spéciaux. Et donc, Streff, en fait, il a déjà écrit pas mal de polars pour enfants chez Magnard. Bon, il suit quand même de près l'histoire du Parti communiste, notamment français. Parce qu'il a écrit quand même un livre sur l'exclusion de certains intellectuels du Parti communiste et leur déchéance. Leur déchéance, leur désillusion, nous allons dire plutôt, entre autres.
Notamment ceux qui n'étaient pas d'accord peut-être avec l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS.
Notamment, par exemple. Exactement. Et puis il a écrit un poulpe, donc toujours sur La Baleine, qui se situait, bon, en fait, il y a un cadavre d'une femme qui est récupérée dans les archives du PCF, n'est-ce pas? Et puis de là, à partir de là, va se découler toute une histoire qui vient en référence après à la guerre d'Espagne. Donc très proche quand même du Parti communiste. Donc cette histoire-là, les caves de la Goutte d'Or. Donc c'est Chloé, une jeune étudiante qui est pigiste, une jeune étudiante histoire qui est pigiste dans un journal, qui reçoit un jour une enveloppe anonyme, une enveloppe craft, toute simple. Et dedans, il y a un tract qui date visiblement des années 60, enfin l'année 61, et qui est signé par un groupe policier républicain. Et dedans ce tract et dedans cette enveloppe, il y a plein de détails sur effectivement des événements qui sont passés cette année-là, notamment au mois d'octobre, des tortures, des violences sur des Algériens. Et donc à partir de là, elle va s'associer avec trois personnes, deux amis, qui rencontrent comme ça, un qui s'appelle Antoine, qui est responsable des archives à la Bibliothèque nationale. Et un jeune Algérien, journaliste, qui est venu en fait en France, parce que son père est mort récemment et il a su qu'il y a des événements ce qui s'était passé, et en fait il vient rechercher la trace de son oncle qui est disparu lors des événements en octobre.
Ces fameux événements.
Voilà, merci Juliette.
Tu y arrivais. Parce que tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'était pudiquement appelé les événements d'octobre 61.
Et en fait, bon, en octobre 61, notamment le 17 octobre, il y a une manif importante du milieu algérien et une répression très 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 sévère. Même, bon, surtout effectivement le 17, mais même après.
C'est-à-dire qu'à l'appel du FLN, ouais, de nombreuses personnes sont venues manifester, y compris en famille, les femmes et les enfants, pacifiquement, tout à fait, quand même le rappeler. Et les forces françaises de police ont tabassé
tuer, torturer et balancer nombre de personnes dans la Seine. D'accord.
Faut bien dire, en tapant dessus avec des matraques, en leur éclatant le crâne, etc. quoi. Donc c'était vraiment un massacre, on va pas dire programmé, mais pratiquement voulu et couvert de toute façon de A jusqu'à Z.
Avec derrière,
par notamment une personnalité qui s'appelle Patron, par exemple. On peut le dire. Et en fait, tout le polar va se passer là-dessus. Le trio va donc découvrir au fur et à mesure la mener son enquête et va ressortir effectivement des dossiers qui sont un peu mauvais pour le gouvernement français et puis la police française, et puis découvrir qu'à l'époque il y avait une milice archaïque qui sévissait dans les quartiers du 18e, notamment le quartier de la Goutte d'Or, qui est maintenant quand même le quartier
arabe de la capitale, on va dire,
et qui sévissait là, et qui en fait même avant les événements de 17 octobre, il y avait déjà des répressions et qu'on chassait un peu l'Algérien parce que c'était... il y a un personnage qui s'appelle le Chinois, qui est engagé par le gouvernement, par la police française, pour commencer à réprimander un peu ce qui s'attassait et chasser un peu l'Algérien, et qu'on ramène d'Algérie. Et lui, ramène en fait les gens qu'il a déjà formés là-bas, les harkis qu'il a déjà formés là-bas, pour effectivement...
aider à réprimer
en fait les Algériens, les FLN, soi-disant les FLN, etc. Sauf que il y a plein d'innocents qui sont aussi pris dans la cause. Et donc le trio va petit à petit dépecer ça. Et en fait, en même temps, s'aperçoivent que dans cet ancien conglomérat de harkis, etc., il y a des personnalités qui sont mortes petit à petit au fil des années. Donc ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un quand même qui les manipule derrière. La personne qui leur a envoyé l'enveloppe essaye de les manipuler, et ils veulent savoir pourquoi et ils veulent savoir qui. Mais ça, vous ne le saurez qu'en lisant le...
les caves de la Goutte d'Or, déjà.
En fait, c'est vrai que le livre nous donne en fait un aperçu historique de la chose. Il nous donne un peu le dessous de la police, parce que c'est vrai qu'à l'époque, la police était très très sombre, puisque il y avait un côté effectivement harki, mais maintenant aussi qu'il y a visiblement un côté, il y avait des membres en fait du Parti communiste qui avaient été intégrés avant dans la police, mais qu'ils ont un peu fermé leur tronche de peur aussi, et donc c'est un peu ça. Donc en fait,
tous les revers de l'histoire.
Tous les revers de l'histoire dans un polar qui se le trie très facilement par contre. Alors c'est un peu, je pense qu'en plus il fait référence au début à un polar exceptionnel de Nynx qui s'appelle Meurtre aux mémoires, qui est un peu basé sur le même principe. Voilà. Nous allons peut-être, Arnaud, écouter un petit disque ou couper carrément, on coupe carrément.
Arnaud nous fait signe qu'il faut arrêter, mais alors je suis vraiment désolée parce qu'il y a un truc qui me tenait particulièrement à cœur dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir. Je vais faire bref. Oui, pourquoi pas, parce que je suis une fille. Vous êtes tous au courant, je pense, de la répression monumentale qui se passe sur les Palestiniens actuellement dans les territoires occupés, et y compris dans Jérusalem-Est. C'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler, parce que j'ai appelé et discuté avec plusieurs personnes par rapport à ce qui vient de passer dans les deux derniers jours. Nous sommes le 5 décembre, je vous le rappelle. Donc depuis le 3, l'héliport de Arafat a été bombardé. L'aéroport a été détruit au bulldozer. Des roquettes se sont abattues sur la maison de Yasser Arafat. Des enfants palestiniens ont été tués et blessés. Au moins 60 enfants blessés. Chose que nient complètement les autorités palestiniennes, alors qu'on a pu... nous-mêmes, en bon français, voir ça sur France 2 et France 3. Des images qu'on a vues, il n'y a aucun doute, ils ont bombardé sans tenir compte qu'il y avait des écoliers dans la rue. Alors, certaines personnes m'ont dit, ici, au Havre, et je sais que ça existe partout en France, Daniel Mermet est confronté à ça tout le temps, Daniel Mermet de la fameuse émission « Là-bas, si j'y suis », dont je vous parle tout le temps, confronté au fait que dès qu'on critique le régime israélien, qui est un régime colonisateur, policier et militaire dirigé par Ariel Sharon, qui est un boucher, n'ayons pas peur des mots, on se fait taxer d'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je voulais protester. Et je lance un appel ici dans le bar de l'Apple Pie ce soir et sur Internet pour que des gens se réunissent pour défendre le peuple palestinien qui est agressé et colonisé depuis 50 ans dans une impunité totale, sans que jamais l'ONU s'en mêle, avec de temps en temps la France, qui est un des pays les plus cool, on va dire, qui émet des réserves par la voix de Hubert Védrine et compagnie.
C'est très moche. Il faut vraiment faire quelque chose. Parce que ce qui se joue en ce moment, c'est l'existence entière de l'État palestinien qui a été légitimée par différents traités, et notamment en 93. Donc voilà, bon, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler avant que l'émission se termine. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour faire des réunions, des pétitions, des manifestations et de l'information autour de la répression que subissent les Palestiniens de la part de l'État. Moi, j'estime personnellement, ça n'engage que moi, semi-fasciste d'Israël en ce moment. Voilà, et je ne suis pas du tout antisémite. Envoyez-moi les mails que vous voulez. Pour revenir à des choses plus gaies, on va quand même rappeler peut-être le programme des Rockeurs en du cœur, puisque c'était quand même le but de notre émission de ce soir. Vincent, tu veux bien te recoller à nous dire le
alors,
programme de la manifestation ?
Alors, un petit coup. Donc, samedi 8 décembre, donc à la salle Henri Matisse à Montivilliers, donc dans le quartier de la Belle Étoile, de 17h à 21h, on a 5 groupes à l'affiche, donc Ibijibiz, les Dirty Bugs, Bamboo for Chopsticks, les Super, les Bugs. Et après, donc, on enchaîne à la salle Mamie Blue, donc 329 rue Astrouillant au Havre, le vendredi 14 décembre à 20h30 avec Bonobos et Chantiman Express, le samedi 15 décembre à 20h30 avec Aminima, le dimanche 16 décembre à 18h avec Mobs et Travaux. Ensuite, le week-end d'après, donc vendredi, samedi, dimanche, on commence au foyer Montjoly, rue Montjoly au Havre, avec un concert de musique techno-électronique, donc de 20h à minuit, avec Madison Hero et Président Chirac. Et le vendredi, donc le même soir, à Mamie Blue, à 20h30, avec Lycanthrope. Le samedi 22 décembre à 20h30 avec Red Lézard et le dimanche 23, donc en finale, avec Dirty Bugs en première partie et Backsliders pour finir.
Bah merci beaucoup Vincent, merci pour tout, merci pour la manifestation que vous organisez avec Pascal et toute l'équipe de Mamie Blue pour les Rockeurs en deux cœurs. Merci au Resto du Cœur et particulièrement à Claudine qui est venue nous raconter toute cette histoire, cette grande aventure aujourd'hui. Merci au Red Lézard, merci Jean-Marie, merci Pascal,
merci Julien,
merci Arnaud, merci Dom et Coco,
merci tout le monde.
François, et puis on se retrouve dans 15 jours avec le collectif de soutien aux Indiens du Chiapas. Ciao. On est aujourd'hui avec Claudine, qui est présidente des Restos du Cœur pour la section du Havre et de l'arrondissement. Claudine, bonjour.
Oui, bonjour Juliette.
Alors, on va faire un petit peu d'histoire pour savoir sur la région, à quel moment, grosso modo, s'est créée l'association. Est-ce que...
Oui, alors donc, au niveau de l'association, ben, c'est parti à peu près en même temps qu'au niveau, un petit peu après, au niveau national, mais pas tellement longtemps après, quoi. En fait, c'est 85, en octobre 85, hein, que Coluche a eu une petite idée comme ça, avec l'idée de donner à manger à ceux qui n'avaient rien. Donc, le premier hiver de la campagne, ça commence à Paris et puis ça s'est répandu dans les grandes villes et puis très vite au Havre. Bon, je peux la nommer aujourd'hui, Henriette de Bellis a créé aux expos qui sont démolis aujourd'hui, je crois, un endroit qui était glacial, hein, je me souviens. Voilà. Et donc il y avait un camion aussi, comme à Paris encore aujourd'hui, avec des repas chauds.
Et
voilà,
au Havre,
ça remonte.
Pardon. Oui, oui.
Voilà. Donc ça remonte au début des
une quinzaine d'années.
Des restes,
quoi.
Voilà.
Et presque tout de suite, il y a eu beaucoup de monde ou.
Alors moi j'y étais pas, mais très rapidement oui il y a eu beaucoup de monde. Je peux pas te donner de chiffres, hein, parce que sinon je vais te dire des bêtises.
C'est pas trop important.
Voilà. Et donc en fait là on entame la 17e campagne. Et chaque année on espère que c'est la dernière année, mais hélas ça continue.
Oui, parce que quand ça avait été créé à l'origine. Quand ça avait été créé à l'origine, j'espère qu'on pourra reprendre, on reprend. 3, 2, 1. À l'origine, quand Coluche avait eu cette idée et quand toutes ces associations se sont créées, c'était dans l'espoir, effectivement, que ça ne durerait pas longtemps,
oui,
et qu'il y aurait
oui,
une
oui.
solution qui serait trouvée autrement, voilà, quoi, par voilà. le pouvoir public ou...
Voilà. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, la situation, elle ne s'est pas améliorée, ça se dégrade même de plus en plus. Donc au Resto du Cœur, on a des gens de toutes les couleurs. On essaye de ni être raciste, ni faire de politique, ni voilà, on est indépendant. Bon, j'aime pas beaucoup ce mot-là, quoi. Mais on essaye de rester dans l'esprit du départ, c'est-à-dire de donner à manger aux plus démunis, quoi. Mm-hmm. En espérant de leur donner un coup de pouce pour la suite.
Voilà. Et une question qui a été souvent déjà posée, mais est-ce qu'il y a des critères pour venir chercher un panier repas ou quelque chose au Resto du Cœur ?
Oui. On a des critères qui sont définis par Paris. Donc on a des barèmes qu'on respecte, on est obligé de respecter, et ceci dans le souci de vraiment donner aux plus démunis. Aux plus démunis. Mmh. Voilà, donc oui, effectivement, il y a des barèmes pour répondre à ta question. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Hein. Par souci d'équité, quoi, en fait.
Mmh. Donc, ça serait dommage que des gens profitent et dépendent voilà. De ceux qui en ont vraiment besoin.
Voilà. Bon, qu'il y ait peut-être des profiteurs quand même. Je crois qu'il y en a toujours eu depuis l'aube
de l'humanité.
L'humanité, mais c'est vraiment pas la majorité
donc,
des gens.
Hein. J'imagine que personne n'a vraiment envie de venir
non.
faire semblant.
Non. Et puis, c'est vrai que les restos, on a une image quand même que les gens respectent. Grâce justement à la personnalité de Coluche. Donc nous, on essaye de faire durer ça.
Et donc, voilà. Il y a 8 centres sur la région, donc on disait entre...
Oui, voilà, donc le plus gros centre, c'est Le Havre. Ensuite, on a Fécamp, on a Gonfreville, on a Notre-Dame-de-Gravenchon, Bolbec, Montivilliers... Épouville, Sainte-Adresse, il n'y en a pas tellement, mais il y en a un petit peu quand même.
Oui, c'est ce que je me disais, en fait, il y a des gens partout qui voilà. N'arrivent pas encore à manger à leur faim.
Voilà, dans les grandes villes et dans les milieux ruraux, bon, c'est pas tout à fait la même, le même profil des personnes, quoi, mais bon. En tout cas, on a les mêmes critères, hein, et partout, les gens ont à peu près la même quantité et le même panier repas, on dirait. Et donc, en tout, en France, il y a 2200 centres. Hein,
Ah oui, c'est énorme. Voilà.
Donc, nous, on en a 8, là, dans Le Havre et région havraise. Il y en a 2200. Hein.
Qui fournissent au niveau national à manger à combien de personnes, à peu près, alors ?
Alors, il y a 540 000 bénéficiaires. Là, c'est des chiffres de la campagne hiver 2000-2001. Hein. Mmh. 540 000 bénéficiaires. Ce qui fait, pour la durée de la campagne, c'est 16 semaines, ce qui fait 58 millions de repas.
Oh là là, oui.
Hein, je sais pas si...
Ouais, c'est vraiment énorme.
Voilà. Ouais,
et au niveau de la ville du Havre, par exemple, parce qu'on va pas faire le tour de tous les centres pour aller plus vite, est-ce que tu sais à peu près hein, combien de personnes viennent chercher quotidiennement des repas ?
Alors, bah écoute, je vais te répondre au niveau des 8 centres. Excuse-moi, Juliette.
C'est pas un problème.
Allons-y. Et on a 4062 bénéficiaires. Hein. Ça, c'est les chiffres de l'année dernière, ce qui fait 1823 familles. Et on a aussi des colis de dépannage. Il y a des gens qui viennent et qui correspondent pas forcément au barème. Mais la règle, c'est quand même que celui qui vient... on lui donne un colis d'épanage.
Les gens qui momentanément sont gênés, qui ont un problème.
Voilà. Oui, d'accord. ça c'est très fréquent, des gens qui sont à la rue momentanément, etc. Mmh. Donc on essaye de les écouter, on essaye de les aiguiller vers les services sociaux. Enfin, disons ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment en situation précaire, désespérées. On en a un peu, quoi. Donc on essaye de les écouter puis de les diriger. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de la distribution alimentaire. Hein. On peut les écouter, c'est très important pour eux. Mais je veux dire, nous, on n'est pas... on n'a pas d'argent, on ne distribue pas d'argent.
Voilà. Comment ça fonctionne justement ? Je voulais en venir un peu à ça. D'où viennent les aliments, les denrées diverses ?
Oui,
est-ce qu'il y a des supermarchés qui vous aident, des particuliers ?
Oui, enfin, ce sont
les dons ?
Voilà, c'est essentiellement les dons nature de la CE, notamment pour la viande, la farine. Ça, c'est grâce, c'est Coluche, hein, ça. C'est, donc, c'est Paris qui nous livre. Qui livre au Havre et on se gère la répartition dans nos 8 centres là. Alors, il y a des achats en gros aussi auprès de certains fournisseurs et voilà. Et donc sinon on fait de la récup aussi dans certains hypermarchés. Bon donc c'est peut-être pas utile que je dise de quel supermarché.
Non, pas forcément, parce que je soupçonne qu'ils ne soient pas forcément si altruistes que ça, malgré tout.
Je peux même te dire que pour eux, ça leur coûte moins cher qu'on vienne chercher les denrées qu'ils sont obligés de retirer des rayons, hein,
oui.
5 jours avant la date
de péremption.
Ouais. Bon, voilà. Enfin, bon, je ne me plains pas parce que quand même, nous récupérons et ça améliore un petit peu le quotidien des personnes démunies. Hein.
Et les dons individuels là-dedans, bah non. Les dons individuels là-dedans, ça a une importance quand même ou...
Ah oui, tout à fait. Donc les dons individuels, bah, ça nous permet de, par exemple, de payer l'essence pour les camions. On a 2 camions. Ça nous permet de faire un plus. Par exemple, on va acheter des bûches de Noël. Donc, ça nous permet en partie de payer des petits plus. Donc sinon, oui, ce que je voulais dire et qui est très important, c'est qu'on est essentiellement bénévole. Hein.
Oui, ça c'est important de préciser.
Ça c'est très important et on a une charte. Hein, donc dans la charte, c'est bien indiqué que c'est un engagement auprès des démunis sans, on n'a aucun intérêt dans l'affaire. Hein.
Oui, d'accord.
Aucun intérêt d'aucune sorte, hein, je le précise parce que parfois...
Les Restos du Cœur ont de toute façon une bonne image depuis toujours, et aussi je sais que quand la Cour des comptes ou des organismes comme ça font des vérifications sur la part du fonctionnement et la part de ce qui va réellement aux gens, c'est une des assos les mieux classées, je crois.
Voilà, oui, c'est ça, et là on vient de les avoir là, donc et donc ils vont venir dans les départements, mais de toute façon ils peuvent venir, hein, y a pas de problème, on est réglo au niveau de l'argent. On est très vigilants.
Et ces fameux bénévoles, alors sur le Havre et l'arrondissement, ça représente combien de personnes?
Alors, l'an dernier, on en avait 143. Hein, donc, 143 personnes. Pour le centre du proprement dit du Havre, on en a à peu près 40. Alors bon, il faut quand même que je dise qu'on fonctionne essentiellement pendant l'hiver.
Mm-hmm.
Bon, sauf le Havre et Fécamp qui fonctionne en intercampagne. Ça, très rapidement, dans tous les centres, depuis 88, je crois, on a fait le... Il faut que je dise de bêtises. Oui, c'est 88. On a fait l'intercampagne, c'est-à-dire que c'est ouvert toute l'année. Quoi.
Mm-hmm.
Mais donc là, c'est les personnes... c'est encore des personnes qui sont en dessous de nos barèmes, à 50% en dessous des barèmes. Et il y en a.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils vivent avec combien par mois, grosso modo, tu as une idée ou...
Là, disons, quand environ 2000. 2000. Bon, alors ça peut être des gens qui sont sous tutelle, par exemple. Et alors oui, alors ce que je voulais dire et qui est très important, c'est qu'on a un partenariat. On fonctionne pas tout seul. Hein.
Mm-hmm.
Alors le partenariat, c'est... le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Banque Alimentaire, voilà.
Et comment c'est l'interaction entre ces différents organismes?
Bah, disons qu'on se rencontre régulièrement. On envoie vers les autres quand on peut pas. Bon, par exemple, je sais que le Secours Catholique donne des bons pour acheter du fioul, par exemple.
Mm-hmm.
Comme nous, on n'a pas ça, donc on envoie les personnes vers. Voilà, donc on a un petit cahier avec tous nos partenaires.
D'accord.
Bon, on a quand même un petit problème, c'est avec les professionnels du social, quoi.
Ouais.
Je sais, ils sont débordés. Hein. C'est pas de leur faute, je leur en veux pas.
Tous les assistants sociaux
Donc, je leur en veux pas personnellement, ça c'est certain. Mais on a des soucis de ce côté-là. On a du mal à être reconnus, nous, parce qu'on est des bénévoles qui ont été formés sur le terrain.
Et voilà. Puisque tu reparles des bénévoles, justement, ça. Ça représente quoi le travail, la journée ou les journées de quelqu'un qui est bénévole au Resto du Cœur?
Ah bah c'est si tu veux, il y a rien d'imposé. Il y a rien d'imposé. C'est la personne qui choisit. Donc on lui dit bon ben voilà, concrètement on aurait besoin de ça et de ça. Donc combien vous avez de temps à nous consacrer? Et puis est-ce que vous préférez être en contact avec les personnes ou est-ce que vous préférez faire du tri? Donc la personne choisit en fait. Alors je m'excuse auprès des personnes qui n'auraient pas reçu un bon accueil parce que parfois on est débordé. Et en fait quand on a les bénéficiaires en face et qu'on a des nouveaux bénévoles, on préfère passer du temps avec les bénéficiaires qu'avec les nouveaux bénévoles. Alors excusez-nous, parce que c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr que...
Et alors, bon là, pour les gens qui souhaiteraient contacter les restos, soit pour venir vous aider, soit parce qu'ils seraient éventuellement bénéficiaires des repas, c'est le même numéro de téléphone, la même adresse.
Voilà,
on peut les donner.
C'est le même...
On va trouver les papiers, il n'y a pas de problème.
Là, il n'y a pas de problème, mais là, je ne crois pas que je les ai là, devant moi.
Bon, on peut te donner l'adresse déjà.
Voilà, donc c'est 20 rue Masséna. Mm-hmm. En fait, c'est près du Havre, près de la gare du Havre. Bon, j'aime mieux dire près de la gare que près de la prison.
Oui, c'est entre les deux.
Bon, voilà, c'est entre les deux, mais c'est sûr que...
À côté de la place d'Anton, on va dire.
À côté de la place d'Anton.
Vers rue Masséna, et on peut passer.
Alors donc,
voir à quelle
heure. Mieux le matin. C'est mieux le matin, donc disons entre 8h30 et 11h. Voilà, donc tous les matins, c'est ouvert tout de suite. Hein. Donc, si des personnes pensent, comment je vais dire, qu'éventuellement elles pourraient bénéficier, il faut venir, elles prennent rendez-vous, on leur donne la liste des papiers à fournir, parce que, voilà, et puis elles sont inscrites ou elles ont un colis de dépannage très rapidement.
Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner ou...
Oui, mais je
ah d'accord, le numéro, bon, je le donnerai plus tard, alors c'est pas grave, ça on le coupera, c'est pas le problème. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé par rapport aux actions des Restos du Cœur?
Oui, en fait, les Restos du Cœur, c'est pas que de la distribution alimentaire, mais on essaye aussi de faire de l'aide à l'insertion. Alors, bon, l'aide à l'insertion, c'est pas quelque chose d'évident. Par exemple, moi, je vais vous parler de ce que je connais. Donc, j'étais responsable du centre d'Épouville et la mairie avait accepté de nous prêter gracieusement une parcelle de jardin. Donc, on a tenté de faire...
De la culture.
Et ça, c'est vrai qu'on a réussi pendant un an avec un agriculteur bio. En plus, à la retraite. Et puis, on a eu deux personnes qui sont venues très régulièrement. Alors, bon, c'est donc le retour à l'activité. Alors, l'idéal, hein, ce serait de pouvoir là-dessus créer des emplois. Au niveau de la région havraise, on n'a pas réussi au niveau de la culture, on a réussi quand même au niveau du coiffeur. Parce qu'on a un coiffeur social. Voilà.
Ça se passe comment, alors, ça, par exemple?
Voilà. Donc, le coiffeur social, ça fait un moment, il avait un CES chez nous. Et puis, CES, c'est pareil, c'est un emploi précaire. Enfin, des fois, c'est mieux que rien. Et puis, ça y est, par une concertation avec d'autres assos comme nous, on a obtenu un contrat emploi consolidé. Voilà, donc ça, pour lui,
donc là, il est
c'est bien.
Pendant plusieurs années,
voilà,
mieux payé.
Voilà, lui, il est tranquille de ce côté-là. Bon, par contre, on cherche toujours des moyens de créer des emplois. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Alors, comme autre, il y a un relais aussi. Il y en a un au Havre. Il y en a un aussi à Fécamp, avec accueil des mamans bébés.
D'accord.
Il y a aussi un atelier cuisine. Bon, là, c'est suspendu au Havre momentanément. Alors, c'est en lien avec la caisse d'allocation familiale.
Oui.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux citer d'autre? Bon, il y a d'autres initiatives qui sont prises dans d'autres départements. Mais je crois que là, avec les médias tels que la télévision, je pense qu'ils vont nous montrer là, incessamment, cette semaine, la semaine prochaine, plein de choses.
Oui.
Bon.
J'ai vu qu'il y avait des villes qui avaient réussi à avoir des lieux suffisamment grands pour faire de l'accueil un peu plus développé pour les gens qui veulent passer quelques heures, prendre une douche.
Des choses comme ça. Oui, tout à fait. Au Havre, on n'a pas ça, mais on essaye d'y travailler. Alors, ce que je voudrais signaler aussi, c'est les manifestations qui sont organisées pour les Restos du Cœur. Bon, parce qu'au Havre, il y en a beaucoup. Alors c'est pas nous qui organisons, c'est des personnes qui nous proposent. Alors par exemple, celle que je connais, c'est les Rockeurs ont du cœur. Les sportifs ont du cœur, on le dit.
Ah ouais.
Ouais. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Enfin bon, on est limité hein, au niveau de la législation. On ne peut pas en faire plus que 6 grandes manifestations par an. Bon, on est limité. Mais il y a des étudiants aussi parce que Le Havre devient une ville un petit peu à la fois universitaire. Et donc, il y a des étudiants qui nous proposent, dans le cadre de leur projet tutoré, de faire des choses pour les restos. On est beaucoup sollicité.
Ça,
c'est vraiment.
Et donc, bon, les rockeurs ont du cœur, on connaît. Puis les auditeurs en entendront plus parler tout à l'heure, puisqu'on va recevoir Pascal et Vincent. Mais, par exemple, les étudiants ou les sportifs, donc les rockeurs, bon, je dis les gens connaissent, mais enfin, quand même, c'est dans le but d'une entrée, un jouet, apporter des jouets pour les enfants qui éventuellement n'en auraient pas à Noël. Mm-hmm. Et les autres manifestations vont rapporter quoi, par exemple?
Disons que nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas d'argent. Nous, on ne collecte jamais d'argent. Mm-hmm. Hein, quand des personnes, des associations veulent nous donner, nous préférons en nature, mais pas en espèces. Ouais. Hein, par exemple, en ce moment, il y a une manifestation avec plusieurs associations à la SAM de Cocrioville.
Ouais.
On a eu un contact avec le responsable de la SAM, mais c'est pour des conserves.
Ah d'accord.
Voilà. Donc, mais jamais, 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 les Restos du Cœur ne collectent d'argent. Qu'on se le dise.
Le message est passé.
Ne répondez pas aux collectes d'argent.
Voilà, si des gens se font passer pour des membres des Restos du Cœur.
Voilà. Si des personnes, des auditeurs de la radio, souhaitent organiser une manifestation, qu'ils nous contactent. Parce qu'il faut, il faut qu'il y ait un premier contact avec une habilitation.
Oui, d'accord. Hein,
de notre part, quoi. Mmh,
oui, pas n'importe qui peut faire un spectacle ou une manifestation.
Voilà, il faut qu'ils nous contactent. C'est pas pour qu'on contrôle, hein. Mais qu'on soit au courant des initiatives.
C'est logique, quand même. On est quand même aussi dans un monde d'image. Ça serait dommage que l'image des Restos du Cœur pâtisse d'une manifestation qui partirait d'un bon sentiment. Mais
voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous manifester. Donc au numéro de téléphone que va vous indiquer Juliette.
Voilà. À la fin de l'émission, on rappellera tous les contacts nécessaires pour rejoindre les Restos du Cœur. Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. Alors, n'hésitez pas à venir au resto. Je sais que c'est pas évident, franchement vous n'avez rien, si vous n'avez rien à manger, si momentanément vous avez des gros problèmes, n'hésitez pas. Hein, vous serez toujours bien accueillis. Enfin, on essaye de vous accueillir au mieux. N'hésitez pas à venir nous voir avant que la situation se détériore, parce que hélas. Voilà, ça arrive parfois. Donc n'hésitez pas, hein, ça peut arriver à tout le monde. Bon, moi j'ai la chance d'avoir à manger comme il faut, mais ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Nous, on le voit en tant que bénévole. N'ayez surtout pas la honte. Voilà.
Bon, j'espère que les gens entendront ce message. Eh bien, Claudine, il ne reste plus qu'à te dire merci. Bravo aussi pour tout le boulot que tu fais.
Toi, oui, non, mais on est autres. Voilà, c'est ça. On est nombreux. Ouais. On est nombreux et qu'on soit président, trésorier, on est tous bénévoles au même titre et on fonctionne en équipe. Hein. Et on essaye de faire au mieux. Alors, s'il y a des personnes qui ont des remarques à faire, n'hésitez pas à contacter la présidente, Claudine.
Impeccable. Voilà. Je te remercie encore et j'espère que y a des gens qui auront envie de faire des dons, de venir vous aider et que le message sera passé.
Voilà, non, Juliette, je te remercie également.
À bientôt. Allez, bon courage pour
tout. Au revoir.
Au revoir.